Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le cessez-le-feu est-il en sursis au Moyen-Orient? Les frappes ont repris entre l'Iran et les États-Unis qui s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve en vigueur depuis un mois. Dans l'Aisne, l'ex-petit ami de Chloé est passé aux aveux. Il a bien porté les coups de couteau, mais nie toute volonté de tuer l'adolescente retrouvée morte avant-hier sur le chemin du collège. Et puis Strasbourg passe à côté de son rêve européen. Les Alsaciens battus 1-0 par le Rayo Vallecano aux portes de la finale de Ligue Conférence.
Un cessez-le-feu de plus en plus fragile entre les États-Unis et l'Iran.
Nouveau regain de tension. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu un mois tout juste après l'avoir conclu. Lucas Laubert, vous êtes en direct avec nous ce matin sur RMC. Les frappes ont repris hier, Lucas.
Oui, les États-Unis affirment avoir visé des installations iraniennes. Des frappes de riposte, selon Washington, après des attaques contre trois navires militaires traversant le détroit d'Ormuz. Selon la télévision d'État iranienne, ces attaques étaient là aussi une réponse après que les Américains ont ciblé deux bateaux, dont un pétrolier iranien. Alors, faut-il craindre pour la trêve? Non, dit Donald Trump. Interrogé par des journalistes, le président américain affirme que le cessez-le-feu tient toujours.
Ils ont joué avec nous aujourd'hui et nous les avons balayés. Ils ont joué, j'appelle ça une broutille.
Donald Trump maintient tout de même la pression sur l'Iran. Hier, il a de nouveau appelé Téhéran à signer un accord rapidement, sous peine d'être frappé bien plus lourdement à l'avenir.
Explication de Lucas Laubert sur RMC. Des tensions qui risquent de faire grimper à nouveau le cours du pétrole et donc le prix des carburants. Le gouvernement a diffusé une circulaire hier pour inciter les fonctionnaires à faire plus de télétravail. Compliqué par contre de jouer un match de foot en distanciel à cause de la flambée des prix. Certains clubs amateurs sont contraints de faire une croix sur des tournois. C'est le cas du club de Quillan dans l'Aude qui n'enverra pas ses joueurs jouer aujourd'hui. Reportage de notre correspondant Jean-Wilfried Forquès.
Depuis plusieurs semaines, il y a moins de déplacements pour l'équipe de Dylan et Gauthier, tous les deux âgés de 8 ans.
C'est frustrant parce que avec mon équipe, on a envie de jouer et on peut pas jouer à cause de l'essence.
Moi, ça me saoule qu'on puisse plus déplacer autant qu'avant, tous les samedis. Maintenant, je dois le faire une fois sur 3 ou une fois sur 2.
Allez, on y va les gars. Intérieur pied gauche.
Comme beaucoup de proches, Jacqueline, la grand-mère de Jean, ne peut pas suivre toutes les rencontres.
Vu le prix de l'essence, on a des petites retraites et on peut pas aller où on veut, quoi. On a un choix à faire.
Et Guillaume Lacroix, le président, doit surveiller les finances de son club en faisant par exemple l'impasse sur le tournoi des jeunes aujourd'hui à Carcassonne.
Kia, on est à 45 minutes, donc ça veut dire on est à 50-55 km. Voilà, on a privilégié par exemple la semaine d'après un tournoi à Limoux qui est à 25 km.
Le club de Quillan bénéficie de bons de carburant offerts par le district de football, des bons de 15 euros pour chaque équipe de jeunes. Geste symbolique, mais très apprécié.
Il est 7h03 sur RMC, un peu plus de 24 heures après la mort d'une collégienne de 14 ans dans l'Aisne. Le principal suspect est passé aux aveux.
Un homme de 23 ans, interpellé quelques heures après la découverte du corps de l'adolescente sur le chemin du collège. Maxime Clieruza, service police-justice d'RMC. Il s'agit donc bien de son ex-petite amie et il a avoué une partie des faits.
Pendant sa garde à vue, il a reconnu sa présence sur les lieux du meurtre et surtout, il a reconnu avoir frappé à l'aide d'un couteau son ex-petite amie dont il était récemment séparé. Mais il nie toute intention de tuer la collégienne. Pourtant, selon les proches de l'adolescente décédée, il avait par téléphone, quelques jours plus tôt, menacé de mort sa victime, mais aussi son entourage. Et ce n'est pas la première fois que son ex-petite amie est présentée à la justice. En 2023 déjà, ce jeune sans emploi avait été interpellé pour port d'armes sans motif légitime, sans que le parquet nous précise s'il s'agissait ou non d'une arme blanche.
Ni le début d'une épidémie, ni d'une pandémie tempère l'Organisation mondiale de la santé face à l'inquiétude suscitée par l'antavirus, infection contractée par plusieurs passagers de cette croisière sur l'Atlantique. Le bateau attendu aux Canaries dimanche pour évacuer le reste des passagers. Le risque de propagation est limité, dit l'OMS. Si les mesures de santé publique sont mises en œuvre, certains cas contacts sont déjà identifiés. Solène Leroux, comment sont-ils pris en charge?
Eh bien, tout dépend de leur état de santé, dit l'OMS. Pour une personne avec des symptômes, la règle, c'est l'isolement et un test pour confirmer ou non l'antivirus. S'il n'y a pas de signe de maladie, il est recommandé de surveiller activement sa santé et puis évidemment de signaler tout changement rapidement. En France, 8 cas contacts sont désormais identifiés. Les autorités sanitaires leur ont proposé par précaution d'être dépistés et isolés. Pour le seul qui présente effectivement des symptômes, bénin, il a été isolé et testé de office.
L'OMS, Solène, doit en urgence retrouver d'autres cas contacts.
Oui, en commençant par retrouver la trace des passagers du MV Ondus, ceux qui ont débarqué à Sainte-Hélène le 24 avril, avant même que l'on apprenne l'existence du cluster dimanche dernier. Dans un premier temps, c'est la compagnie maritime qui les a tous avertis. C'est d'ailleurs comme ça, précise l'OMS, qu'un passager suisse s'est déclaré de lui-même après avoir ressenti des symptômes. Il a depuis été testé positif à l'antivirus. Il faut ensuite retrouver tous ceux qui ont croisé la route de ces vacanciers lors de leur vol retour, par exemple, ou encore dans les hôpitaux fréquentés par les malades, comme l'établissement sud-africain où une néerlandaise contaminée est décédée.
Précision de Solène Leroux, spécialiste santé d'RMC.
Et puis il n'y aura donc finalement qu'un seul club français en finale de la Coupe d'Europe.
Strasbourg a échoué à atteindre la dernière marche de Ligue Conférence, battue 1-0 hier soir par le Rayo Vallecano comme à l'aller. Jamais les Alsaciens n'ont réussi à faire trembler les Espagnols. Les joueurs du Racing sont passés à côté de leur match, Clément Brossard.
Les sifflets du public de la Méno dès la mi-temps, alors que le score était de 0-0, montraient déjà la frustration des supporters en colère à la fin du match.
Je sais pas ce qui s'est passé, ils étaient à côté.
Physiquement, ils étaient cramés ce soir.
On n'a pas donné ce qu'on sait faire sur le terrain, c'est ça qui m'énerve le plus.
Le milieu de terrain Diego Moreira assume, Strasbourg n'était pas au niveau hier soir.
Qu'est-ce qui a manqué ce soir ?
Tout. Un peu un manque d'envie de tout le monde, d'efficacité devant le but, de collectivité. Il y avait des choses à rectifier, mais qui n'ont pas été rectifiées pendant le match.
Protecteur, l'entraîneur alsacien Gary O'Neill tenait lui à souligner qu'il était difficile pour son jeune groupe de rivaliser.
It's the club's first year.
C'est la première année où l'équipe joue autant de matchs et le groupe n'était pas préparé à ça. Les autres clubs européens qui jouent autant sont le PSG ou le Bayern. Ils ont deux équipes à aligner sur le terrain, pas nous. Je suis fier de notre parcours, mais contre le Rayo Vallecano, on n'avait pas le niveau.
Pour Diego Moreira, tout n'est pas à jeter.
On est fier quand même d'être arrivé jusqu'ici. On a aussi marqué un petit bout de l'histoire de Strasbourg.
Même si l'an prochain, sauf miracle, Strasbourg sera absent de toute compétition européenne.
Le Rayo Vallecano affrontera donc en finale Crystal Palace le 27 mai. Les Anglais vainqueurs du Shakhtar Donetsk de 2-1. Rien ne va plus au Real Madrid après une altercation verbale mercredi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs en sont venus aux mains hier. Le milieu de terrain uruguayen souffre d'un traumatisme crânien. Toutes les explications dans le journal de 7h30. Et puis c'est la fin d'une époque. La FIFA met fin à son partenariat historique avec Panini pour la Coupe du Monde. Les vignettes cultes de l'entreprise italiennes laisseront place dès 2031 à celle de l'américain Fanatics.
Incroyable.
Ouais, ça ouais. Depuis 1970.
Oui, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une continuité là-dessus. Bon, ouais. c'était le journal de Clara Gabi et il est 7h07 sur RMC et on va parler du plafonnement des prix de Total Énergie parce que ça agace les autres stations-service. Bonjour Frédéric Plan. Vous représentez les stations-service indépendantes et vous annoncez saisir l'autorité de la concurrence parce que pour vous, il n'y a aucun doute, c'est de la concurrence déloyale. Vous nous le dites dans un instant. Et puis vous qui nous appelez au 3216, évidemment, c'est assez paradoxal. Est-ce qu'il faut empêcher Total de plafonner les prix pour des raisons de concurrence ou est-ce que vous préférez évidemment qu'on continue à plafonner les prix dans les stations Total? Je vous attends pour réagir au 3216, 7h08.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 1,99€ pour le samplon 95, 2,25€ le gazole et même une ristourne à 2,09€ pour les ponts de mai. Voilà les prix pratiqués par les stations Total. Et face à cela, vous avez annoncé saisir l'autorité de la concurrence. Frédéric Plan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le conseiller national de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Vous représentez les stations-services indépendantes. Vous estimez que c'est une concurrence déloyale. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que vous pensez vraiment pouvoir obtenir gain de cause ?
Alors, pour obtenir gain de cause, il faut une instruction de cette demande auprès de l'autorité de la concurrence. Ça dure plus de 12 mois habituellement. Alors, nous l'avions déjà saisi en 2023 pour des faits analogues. Mais nous l'avions saisi pour avis et l'autorité de la concurrence n'avait pas délivré d'avis en expliquant qu'elle n'avait pas suffisamment d'éléments. Donc cette fois-ci, nous sommes obligés d'engager une action contentieuse pour tenter d'avoir une doctrine concurrentielle. Et pourquoi cela ? Parce qu'en fait, on comprend bien qu'à partir du moment où un opérateur a les moyens de pratiquer des prix d'affichage très inférieurs la plupart du temps aux autres réseaux de distribution, eh bien, les consommateurs, les automobilistes se dirigent vers ce réseau-là et les autres réseaux en pâtissent, c'est-à-dire vendent moins de carburant.
Vous comprenez bien que ça va pas être très populaire. C'est-à-dire que du point de vue économique, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais il y a une contradiction folle. On a l'impression que d'un côté, on a le gouvernement qui dit à Total, baissez vos prix, et d'ailleurs continuez à faire un plafonnement généreux. Voilà exactement l'expression de Sébastien Lecornu. Les Français, évidemment, s'en réjouissent. Je comprends bien. Quand ils ont le choix, ils préfèrent aller au moins cher. Et en même temps, vous dites finalement, c'est une sorte de situation folle. Avec une concurrence déloyale, avec une pub que ça fait à Total qui tient à la fois le début et la fin de la chaîne, est-ce que vraiment vous imaginez que le gouvernement, que la justice puisse vous donner raison ?
Alors, comme je le disais, la justice, en l'occurrence l'autorité de la concurrence, qui n'est pas un tribunal, mais une autorité indépendante, qui peut conduire effectivement ensuite à des griefs,
à des poursuites, ouais.
Condamnation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il s'agit pas pour les stations-service indépendantes de dire c'est pas bien que les autres vendent moins cher. Si on se met à la place de l'automobiliste, nous le sommes tous un jour à un moment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est il y a un dispositif économique très particulier qui concerne ce réseau de distribution qui permet cela et les autres ne peuvent pas le faire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on équilibre les conditions économiques pour que tous les automobilistes finalement puissent bénéficier de prix moindres.
Sachant, Frédéric Planck, que Total vous vend à un certain nombre d'entre vous, à un grand nombre d'autres distributeurs, vous vend le carburant. Est-ce qu'il vous le vend moins cher à la source, j'allais dire?
Non. Alors, je vais faire de la publicité pour Total. Ça risque de vous surprendre. On a la chance quand même d'avoir une société qui a du raffinage en France. C'est bien mieux que de ne pas en avoir du tout, ou d'avoir au Moyen-Orient. Bien. Cela étant, sa position est originale, elle est unique. Ils sont sur l'ensemble de la chaîne, du haut jusqu'en bas. C'est ce qui leur permet précisément de pratiquer des prix qui ne sont pas les prix de marché tels qu'ils s'imposent en France, c'est-à-dire les cotations internationales, les différents frais de distribution et de logistique en amont. Et donc, nos réseaux de distribution n'achètent pas, en effet, achètent parfois, à certains jours, plus cher leurs essences, leurs carburants, que ce que ne le vend certaines stations Total à certains moments.
Mais est-ce que ça veut dire, Frédéric Planck, qu'au fond, la solution serait sans doute de tenter d'obliger ou de convaincre Total de vous vendre le carburant moins cher?
Alors, ce serait pourquoi pas, sauf que cette fois-ci, on crée un autre problème, c'est que Total ne suffit pas à approvisionner le réseau, dans l'ensemble des besoins du pays, et donc il faut faire appel à de l'importation qui ne pourra pas s'aligner. Et donc, vous voyez, c'est complexe. C'est-à-dire que, oui, ce serait bien sur l'idéal, sur le papier. Sauf que là, on déséquilibre autre chose. C'est que les importateurs ne pourront plus vendre leurs produits, ou en tout cas seront obligés de vendre plus cher, donc n'arriveront pas à le vendre. Donc, ce sont des sujets complexes. On a vu d'ailleurs sur le débat sur les marges de distribution combien c'était complexe, puisqu'il a fallu attendre plus d'un mois pour que le gouvernement nous donne raison quand nous
reconnaissent qu'en effet il n'y avait pas de grain et que vous faisiez pas de l'argent sur le dos des automobilistes.
Et s'il en était autrement, évidemment que les stations-service prendraient sur leur pseudo gras pour essayer d'être concurrentiel.
Mais justement sur ce point-là, pardon Frédéric Plan, mais je voudrais comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, quelle est la situation aujourd'hui? Les Français, évidemment, s'ils ont le choix entre une station Total où les prix sont moins chers, plafonnés, et une station où vous n'avez mécaniquement pas les moyens de le plafonner ou de le faire aussi peu cher, ou aussi moins cher, je dirais, parce qu'on est quand même sur des niveaux qui restent très élevés. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vous souffrez d'une très nette baisse de fréquentation de vos stations?
Oui, alors, sur les sondages, c'est pas exhaustif, donc c'est pas représentatif de la totalité, sur les sondages qui ont été faits auprès d'exploitants de stations-service indépendantes, d'abord, il faut considérer que le marché lui-même, d'un mois sur l'autre, perd 10% en volume, et ça, c'est le fait que les gens, finalement, consomment moins parce que
s'ils peuvent faire un trajet au lieu de deux et donc réduire effectivement la consommation, ils le font.
Tout à la fois, voilà, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ces 10% de pertes, qui ne sont pas perdues pour tout le monde, hein, mais bref, il y en a qui sont à moins 30% en volume. Donc il faut comprendre que vendre moins un tiers de moins quasiment en carburant, ça veut dire que les frais augmentent à due proportion sur les litres.
Et donc là, ça veut dire que vos stations indépendantes, elles sont en difficulté au moment où on se parle?
Avec difficulté de recettes, oui, bien sûr.
Je, Je voudrais rester avec nous, qu'on puisse donner aussi la parole à Fabien qui nous appelle de Rion, en Auvergne. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour Apolline.
Fabien, vous êtes éducateur, vous avez entendu le gouvernement qui invite ses agents publics à minimiser les déplacements, à télétravailler, à reprendre des habitudes un peu du moment du Covid. Impossible pour vous Fabien?
Pour moi non, c'est impossible, je fais 80 km par jour. J'ai une paye qui est pas extraordinaire puisqu'en aide je suis à 1500 euros. Et puis à la fin du mois, j'ai plus rien, un plein. Moi, c'est 130, 140 euros. Et puis, je suis à demander à ma direction si je peux dormir sur place.
Ah, vous en êtes à demander à dormir sur place. Racontez-nous, quelle est la structure pour laquelle vous travaillez? Enfin, c'est une structure privée?
Moi, je travaille pour un collège.
D'accord.
Donc, je suis éducateur.
Ouais.
Et à un moment donné, moi, je pars à 7h le matin, je rentre à 19h le soir.
Ouais.
Et on n'en peut plus. J'avais 4 enfants. Avec 4 enfants, on s'en sortait il y a 20 ans.
Ouais.
Maintenant, on s'en sort plus. On n'est que 2. Moi, je comprends plus.
Oui, c'est même complètement décourageant. Ils ont accepté que vous dormiez sur place. Vous avez changé.
J'ai pas encore osé demander parce que je suis limite à avoir honte.
Mmh. Ouais, de vous dire, attendez, je travaille, je suis censé gagner ma vie et en fait, j'y arrive pas, quoi.
C'est ça.
Je vous sens quand même très découragé, Fabien, ce matin, parce que
peu découragé, parce que quand on a élevé 4 enfants, à un moment donné, on se dit on doit pouvoir vivre du fruit de notre travail, mais on n'y arrive même plus.
Et vous aviez le même métier?
Oui. Ouais. Oui.
Vous aviez le même métier et vous vous en sortiez.
Mais les salaires n'augmentent pas. En 25 ans, j'ai dû prendre 200 euros.
Quand vous disiez que vous aviez des aides, l'aide, c'est laquelle?
Eh bien, j'avais droit aux aides de la CAF,
ouais.
Puisque j'avais des enfants en bas âge.
Ouais. Et donc ça, c'est...
Et là, maintenant, ils sont étudiants,
ouais.
Donc c'est encore pire pour nous.
Oui, parce qu'ils continuent à vous coûter, mais ils ne vous rapportent plus.
En gros, c'est ça, mais c'est dur à dire, hein. Mais on en est là.
On est là, merci beaucoup.
Donc on fait des économies partout.
Vous économisez sur quoi?
Les sorties, c'est zéro. Les vacances, c'est très peu. On fait ce qu'on peut.
Bon courage, Fabien. Mais en effet, ce témoignage, il est très important parce qu'il y a quand même une contradiction. On entend l'État qui dit « remettez-vous à télétravailler », mais en réalité, il y a toute une France qui ne peut pas télétravailler et pour qui les jobs, c'est absolument pas ça. Merci à vous, Fabien, d'avoir témoigné. Et évidemment, comme lui, vous n'hésitez pas à vous pousser la porte du 32-16. Et merci, Frédéric Plan, pour vos précisions ce matin. Vous qui représentez donc la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, les stations-services indépendantes et qui appelez donc la concurrence déloyale a tranché sur Total. Il est 7h20 sur RMC et nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, pour certains d'entre vous, c'est férié, d'autres travaillent. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour.
Vous êtes historien, écrivain. Ce matin, vous allez nous parler de ce 8 mai parce qu'il y a 81 ans, les Alliés triomphaient de l'Allemagne nazie. Mais aucun traité de paix n'a jamais été signé.
Eh oui, nous ne sommes pas en paix juridiquement avec l'Allemagne.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il est 7h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps et franchement, c'est le jour ou jamais. Thierry Lenz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de la Fondation Napoléon. Ce matin, Emmanuel Macron sera à l'Arc de Triomphe pour la commémoration du 8 mai 45. On entend parfois le terme d'armistice. Sauf que c'est une erreur, Thierry.
En effet, Apolline, si on veut être exact, le 8 mai 1945, on signa à Berlin non pas un armistice, qui est un cessez-le-feu, comme en 1918, mais un acte de capitulation qui, lui, met définitivement fin au combat. Et c'est bien ce que signa au nom du Troisième Reich le maréchal Keitel, la capitulation, et même la capitulation sans condition de toutes les troupes allemandes. En clair, elles devaient déposer les armes et se constituer prisonnières.
N'empêche qu'on pourrait dire que ce texte mettait fin à la Seconde Guerre mondiale, donc?
Eh bien, pas du tout.
Ah non?
Pas du tout. D'abord parce que si l'armée allemande avait capitulé, celle du Japon continuait le combat en Asie. Et là-bas, la guerre durera encore 4 mois et s'achèvera par la signature d'un autre acte de capitulation, cette fois le 2 septembre 1945. C'est seulement à cette date que l'on peut dire que les combats de la Deuxième Guerre mondiale étaient terminés. Mais en même temps, l'état de guerre ne l'était pas entre les nations. Il restait à signer des traités de paix. Alors, je vous rassure, le Japon signa le sien avec les 48 pays qui avaient été en guerre avec lui le 8 septembre 1951 à San Francisco.
Et l'Allemagne?
Eh bien, elle ne signa jamais de traité de paix.
Jamais. Donc en théorie, on est toujours en guerre avec l'Allemagne.
Si on veut jouer aux juristes pointilleux, oui, mais dans les faits, pas du tout. Disons d'abord qu'on signa bien à Paris le 10 février 1947 un traité avec les alliés européens de l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Finlande, afin de fixer les nouvelles frontières à l'est de l'Europe. Mais c'est vrai, rien ne fut signé avec l'Allemagne. Cela ne veut pas dire que la guerre avec l'Allemagne continue, parce que les quatre grands vainqueurs, États-Unis, Angleterre, France et Russie, avaient décidé de son occupation. L'Allemagne, vous vous en rappelez, avait été coupée en deux, est et ouest, et ont remis sans cesse la signature de la paix tant que la réunification n'était pas possible.
Et en 1990, il y a eu la réunification.
Oui, mais la question de la paix n'a pas été remise sur
toujours
le tapis.
Pas.
Il est vrai que l'Allemagne fédérale, celle que nous connaissons aujourd'hui, était membre de l'Union européenne, de l'ONU, de nombreuses autres organisations internationales. Elle avait signé des centaines de traités avec quasiment tous les pays du monde. Qui plus est, au moment de la réunification, elle reconnut les frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale. On décida donc de ne pas reprendre le dossier compliqué du traité de paix. Et donc, s'il en est besoin, je rassure nos auditeurs, Apolline, la Deuxième Guerre mondiale est bien terminée.
Merci Thierry. Thierry Lenz, historien, écrivain, directeur de la Fondation Napoléon. Je précise d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent à la télévision, que je porte à ma boutonnière un bleuet, les bleuets de France, qui sont un hommage aux soldats blessés, aux familles endeuillées, aux pupilles de la nation, aux victimes d'actes terroristes. C'est une tradition et c'est un honneur de le porté ce matin. Il y a aussi Thierry, un autre Thierry, qui nous appelle au 32-16 depuis La Rochefoucauld en Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline, bonjour
Thierry, vous vouliez nous parler de votre fils qui se passionne pour l'histoire, je crois.
Ah, c'est même plus que de la passion, j'irais parler jusqu'à être fan.
Fan
de la Seconde Guerre mondiale.
D'accord, mais ça l'intéresse, ça le passionne,
On a fait, il y a 3 ans en arrière, on a fait la Normandie en long, en large et en travers,
ouais.
Avec tous les musées. Saumur, on y retourne la semaine prochaine pour la 6e ou 7e fois.
Waouh.
L'année dernière, on a fait les 200 ans du cadre noir.
D'accord.
Mais c'est, franchement, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il m'impressionne, quoi. Je sais pas où il va chercher.
Il a quel âge?
14 ans. 13 ans.
Il a 13 ans.
Ouais, 13 ans.
Vous grandissez un peu, mais je comprends parce qu'il faut être très mûr quand même pour.
Ouais, mais là, je vais faire mon malin, là, avec ce que j'ai entendu là. Je vais lui dire, tu sais qu'on n'a jamais rien signé.
Voilà. Vous allez.
Vous savez quoi? Je m'attends même à ce qu'il me dise, mais je sais, hein, parce qu'il y a eu ça, mais parce qu'il l'aura lu quelque part. Et vous savez, en plus, ce qui est magique, les réseaux sociaux sont magiques, parce qu'une fois, avant d'aller en Normandie, j'avais mis un message sur mon réseau, sur Facebook, en mettant, on va aller en Normandie, si vous avez des idées de sortie ou des choses comme ça. J'ai reçu un roman de lettres de témoignage de la Seconde Guerre mondiale pour mon fils. J'ai reçu des entrées pour des musées en Normandie. Enfin, ça a été une déferlante incroyable.
C'est génial. C'est-à-dire que, effectivement, autour de lui.
Ouais,
et vous-même, ça vous a replongé? Vous étiez un passionné d'histoire déjà avant qu'il.
Pas passionné, mais je m'intéresse parce que pour savoir pourquoi on est en 2026 comme ça, il faut savoir aussi ce qui s'est passé avant.
Exactement.
Je veux dire, si je parle pas allemand aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, des jeunes de 16-18 ans qui venus de d'autres pays. Et c'est vrai que lui, la passion, par contre, c'est le débarquement et les chars.
Pardon Thierry, on a parlé ce matin des classes défense dans certains collèges et lycées. On sait qu'aujourd'hui, on va remettre une forme de service militaire. Alors, c'est pas exactement celui à l'ancienne, mais c'est quand même une manière de pouvoir servir la France et les drapeaux. Est-ce que vous avez l'impression, Thierry, que ça pourrait aussi susciter cette vocation-là chez lui, chez votre fils?
Ah, mais c'est clair. Il va aller en seconde générale, normalement, après sa troisième,
ouais.
Son niveau scolaire. Et dans le lycée où il va aller, il y a une option défense et géopolitique.
Ah, bah, il va l'apprendre, c'est sûr.
C'est
génial.
Programme. Mais il me fait. C'est mon fils, donc comme vous avez des enfants, c'est toujours les meilleurs du monde, mais c'est vrai que quand il en parle, il est passionnant quand on va
mais vous savez, moi franchement, ça me met, de vous entendre, ça me met les larmes aux yeux, parce que je me dis en fait c'est quand même ces moments là d'abord se nourrir aussi d'histoire. C'est aussi pour ça qu'on est toujours très heureux d'avoir vraiment choisi dans cette matinale, et je crois que on est la seule matinale de France à avoir décidé de mettre de l'histoire tous les jours, tous les matins, l'historien. Alors habituellement c'est notre Arthur Chevalier, oui. Ce matin on a le plaisir d'accueillir Thierry Lenz, mais c'est vrai qu'on trouve ça très important, savoir d'où on vient pour comprendre aussi notre monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry, et on embrasse votre fils, il s'appelle comment?
Iliane.
Eh ben on l'embrasse. Allez, très belle journée à vous, très bon 8 mai à tous. Il est 7h28 sur RMC, et dans un instant évidemment la météo et le journal. On est ensemble jusqu'à 9h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Fan zone ou pas fan zone, dans trois semaines pour la finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Casse-tête sécuritaire et désaccord entre la ville de Paris et un gouvernement refroidi par les violences de mercredi soir. La trêve à l'épreuve du feu ce matin au Moyen-Orient. Les missiles ont fusé ces dernières heures. Conséquence chez nous, faute de pouvoir endiguer la flambée des carburants, l'État encourage ses fonctionnaires à télétravailler. Et puis le Rassemblement National a-t-il pioché illégalement dans des fonds européens pour payer des formations à ses troupes? Le parti conteste. Jordan Bardella est cité dans cette affaire.
Le compte à rebours est déclenché. Paris et l'État en trois semaines pour s'accorder sur le 30 mai.
Date de la finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Il y a le cœur et la raison. Le cœur, c'est le maire de Paris qui veut réunir les supporters dans une fan zone. La raison, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'est inquiété du projet hier et qui regarde les chiffres. 127 interpellations en marge des célébrations mercredi soir. Nicolas Pelletier, il faut dire que les défis sont nombreux pour encadrer l'événement.
Oui, un casse-tête sécuritaire pour la préfecture de police de Paris. Le soir du 30 mai, trois gros concerts, dont celui d'Aya Nakamura au Stade de France, sont organisés en région parisienne. Au même moment se tiendra le tournoi de Roland-Garros. Une fan zone ouverte et gratuite dans les rues de Paris pour regarder le match n'est donc pas la priorité du moment pour les autorités. Le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, a rapidement émis le souhait mercredi soir d'installer une grande fan zone dans les rues de sa ville. Il n'aura pas le dernier mot. Lors de la finale 2025, aucune fan zone populaire n'avait été installée à Paris. Une diffusion au Parc des Princes, comme la saison dernière, reste une solution qui pourrait rassurer les autorités. Le PSG travaille sur le même projet qui avait permis de rassembler 48 000 supporters dans un lieu fermé et sécurisé.
Et Strasbourg n'aura pas toutes ces questions à se poser. Les Strasbourgeois ne verront pas la finale de Conference League éliminée par le Rayo Vallecano hier soir après une nouvelle défaite 1-0. Donald Trump maintient le cessez-le-feu avec l'Iran ce matin. Déclaration alors que les États-Unis ont frappé hier les côtes iraniennes. Réponse selon Washington à des tirs de missiles ayant visé trois navires de guerre américains. Une broutille, dit Trump, une violation de la trêve, répond Téhéran. C'est dans ce contexte que chez nous, les députés ont approuvé une rallonge budgétaire, 36 milliards d'euros supplémentaires pour l'armée d'ici 2030. Encore faudra-t-il que le texte complet soit voté. Conséquence plus inattendue de ce conflit, le gouvernement prône le télétravail des fonctionnaires, préfectures, rectorats ou encore services des impôts, tous concernés par cette circulaire dévoilée hier face à la flambée des prix des carburants. L'idée, Philippine Boulet, c'est d'encourager le passage à 3 jours de travail à distance par semaine.
Nathalie est fonctionnaire à la préfecture de Lille. Elle est déjà en télétravail 2 jours par semaine.
On pourrait en avoir un troisième, oui, qui pourrait m'avantager. Là, c'est un aller-retour par semaine qui serait bénéfique. Le budget essence pèse. Étant donné que je suis de catégorie C, avec pas forcément un gros salaire.
Sauf que travailler depuis chez soi n'est pas possible pour tous les agents de la fonction publique. Christian Grolier est le secrétaire de la Fédération Force Ouvrière des Fonctionnaires.
Presque 2/3 des personnels qui n'ont pas droit au télétravail au regard de leur mission. Les enseignants, mais vous rajoutez les policiers, vous rajoutez les surveillants pénitentiaires, dans l'hôpital, bien sûr, les personnels hospitaliers.
La circulaire demande aussi de réduire drastiquement les déplacements évitables. Les réunions, formations, jurys doivent, quand c'est possible, se tenir en visioconférence. Mais pour Christian Grolier, c'est largement insuffisant.
Nous, on a deux idées. La première, bien sûr, c'est de revoir le barème des indemnités kilométriques et puis après, qu'on sorte de l'austérité, qu'on revoie la grille de salaire.
Dans la circulaire, Bercy appelle également à sensibiliser les agents de la fonction publique à l'indemnité carburant de 50 euros destinée aux travailleurs modestes grands rouleurs.
La route, justement, est moins de monde qu'hier. En ce vendredi férié, Bison Futé ne prévoit du orange qu'en région parisienne et Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Vendredi férié et de commémoration. Emmanuel Macron présidera à Paris la cérémonie de commémoration de la libération. Sébastien Lecornu sera dans son fief de Vernon. Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et Jordan Bardella à la Flèche dans la Sarre. Tout cela au moment où le RN conteste de nouvelles accusations de fraude. Il y a l'affaire des assistants parlementaires payés par le Parlement européen, mais soupçonnés d'avoir travaillé uniquement pour le parti. Sonia Gobry, cette fois, la justice s'intéresse à la plainte d'une association. Elle soupçonne le RN d'avoir utilisé des fonds européens pour financer des formations à ses troupes.
Des formations à la prise de parole médiatique dont Jordan Bardella a bénéficié, sauf qu'à partir de septembre 2021, ce n'était pas dans le cadre de son mandat de député européen, mais pour préparer la campagne présidentielle de Marine Le Pen. C'est ce qu'affirme le Canard Enchaîné, et c'est sur cette base que l'association AC Anticorruption explique dans sa plainte que cela relève du détournement de fonds publics. Accusation contestée par le RN, le parti assure que tout a été réalisé dans les règles et validé par les services du Parlement européen. Nous n'avons strictement rien à nous reproché, renchérit Jordan Bardella. Il rappelle qu'il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. La justice française, elle, attend les conclusions du parquet européen pour poursuivre ou non le Rassemblement national.
Sonia Gobry du service politique de RMC. Le suspect du meurtre de Chloé a en partie reconnu les faits en garde à vue. Le jeune de 23 ans, ex-petit ami de cette collégienne de l'Aisne, a avoué lui avoir porté les coups de couteau ayant entraîné sa mort, mais il conteste avoir eu l'intention de la tuer. Les enquêteurs ont pourtant récupéré des enregistrements où il menace l'adolescente. Il est 7h36 sur RMC. On en vient à la presse espagnole en complète ébullition après une bagarre entre joueurs du Real Madrid. Des éditions spéciale à la télévision pour analyser le moindre rebondissement. Edgar Grollo, vous êtes le correspondant de RMC dans la capitale espagnole. Un international français est impliqué dans cette affaire.
Oui, la situation a dégénéré à la fin de l'entraînement du Real Madrid hier midi. Après une altercation verbale la veille, la tension monte entre le français Aurélien Tchouaméni et son coéquipier Federico Valverde. De retour au vestiaire, une bagarre éclate, Federico Valverde tombe, s'ouvre la tête et perd connaissance quelques secondes. L'Uruguayen est transporté à l'hôpital. Diagnostic, il souffre d'un traumatisme crânien. Il devra observer une période de repos de 10 à 14 jours. Pendant l'altercation, j'ai heurté une table, explique Federico Valverde sur ses réseaux sociaux. À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et moi non plus. Le vice-capitaine du Real s'excuse tout de même d'une dispute absurde. Le club a annoncé l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre des deux joueurs. Une polémique qui plonge le Real Madrid dans le chaos à deux jours du Classico face au FC Barcelone ce dimanche.
Et ce sera à suivre évidemment sur RMC, tout comme le Giro qui débute aujourd'hui, le Tour d'Italie, dernier grand tour en cyclisme avant le Tour de France. En l'absence de l'ogre Tadej Pogacar, c'est son rival historique Jonas Vingegaard qui est favori.
Et puis le quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris aujourd'hui.
Départ 15h15, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 6, Everstar. Son outsider, le numéro 4, Riassou. Le 6 et le 4.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37. On vous offre vos vacances. Et c'est le moment. C'est maintenant, dernier jour pour gagner vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Jouez pour remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Vous pourrez choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Bellambra s'occupe des enfants, des activités, des repas. C'est le tout compris premium. Ça nous fait un peu rêver, j'avoue, avec Mathieu. Alors, pour remporter vos vacances Bellambra, vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16 et le gagnant sera en direct avec moi avant 9h. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Au 32-16, vous nous appelez pour réagir. Bah oui, c'est le 8 mai, on parle d'histoire et on parle des jeunes. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Jérôme, comment ça va? Vous habitez à Lyon et je crois que vous avez une fille qui a découvert que dans son école, il y avait une classe défense. On en parlait à l'instant avec un auditeur qui disait que son fils était passionné. Comment ça se passe chez vous?
Oui, et ben en fait, c'était assez étonnant puisqu'en fait, en allant visiter le lycée, elle est en troisième. En allant visiter le lycée, elle est tombée sur ce club, cette espèce de stand de l'armée, qui parlait de la seconde défense. Et là, elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit « je viens dans ce lycée ».
Ça a été le déclic.
Ça a été le déclic, alors qu'en fait, on n'est pas du tout de carrière militaire, on n'a personne qui travaille du côté militaire. Et ce qui a été encore plus rigolo, c'est son petit frère qui est en sixième, qui visitait le lycée avec nous. Se retourne vers moi et dit « Ah bah j'ai hâte d'être en seconde pour faire la seconde défense ».
Non mais c'est dingue. Franchement, c'est très fort. Comment vous avez réagi, vous ?
Eh ben, moi je trouve ça bien d'avoir un cadre militaire. Enfin, je pense que c'est pas un mal d'être un peu encadré. Et de s'approcher, que les enfants aient envie de s'approcher de l'armée et de la rigueur militaire, je trouve ça plutôt positif.
Et on en a parlé ce matin, on a raconté aussi, on a eu vraiment des reportages pour savoir aussi comment se passe.
Mais ce qui est intéressant, c'est que venu des parents, qu'on apprécie cette rigueur-là et cette image-là, c'est moins surprenant. Mais il y a une appétence des jeunes pour cette chose-là, une appétence des jeunes pour le service ou la chose militaire, Jérôme.
Ah oui, tout à fait, ouais. C'est ça qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'enfants, hein. Il y avait quand même beaucoup d'ados autour de ce stand.
Voilà. Ouais, je trouve ça vraiment chouette, intéressant, très nouveau. Bon, alors évidemment, le contexte, moi j'ai l'impression de parler aujourd'hui beaucoup plus de ces conflits, c'est de la réalité de l'armée, mais c'est pas que ça, exactement.
Il y a des ingénieurs, il y a des tas de métiers, il y a des drones désormais, il y a des tas de choses qui se développent aussi autour de ça.
C'est une vraie fierté, j'imagine, pour vous, Jérôme.
Ah bah oui, complètement, ouais. Je pense que c'est bien de mettre un peu de patriotisme. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu un message du collège dans Pronote, que vous devez connaître. On a eu un message du collège qui disait qu'il y allait avoir des réunions avec l'armée pour mettre en place des options défense au collège. Et ma fille était dégoûtée en disant, bah ils mettent ça en place quand je m'en vais.
Donc elle aurait aimé pouvoir commencer plus tôt. Merci Jérôme de votre témoignage. On embrasse votre fille. Et comme Jérôme, vous êtes nombreux à réagir sur ce sujet. N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Il est 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est un navire au centre de l'attention qui est attendu ce week-end dans les Canaries au sud de l'Espagne. Faut-il craindre une épidémie d'antivirus à cause du MV Ondus, ce bateau qui arrive donc en direction de l'Europe? Bonjour professeur Renaud Pierroux.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. L'OMS veut rassurer. Elle dit qu'il y a des nouveaux cas possibles, mais qu'il n'y a pas d'épidémie en vue. Vous nous expliquerez ce qu'il faut craindre ou pas dans un instant, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC et RMC Story et cette croisière qui ne s'amuse plus du tout. Le MV Ondus est attendu ce week-end à Tenerife, l'île espagnole des Canaries, et c'est un navire qui est au cœur d'une alerte sanitaire. Bonjour professeur Renaud Pierroux.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de santé publique, spécialiste des maladies infectieuses. Il y a eu donc 8 cas d'antivirus signalés, 3 des membres de cette croisière qui sont décédés et plusieurs qui sont, au moment où l'on se parle, hospitalisés. De quoi s'agit-il d'abord? De quoi on parle?
On parle d'une maladie virale qui, en fait, existe en Amérique du Sud, et avec un certain nombre de cas, mais pas un grand nombre, quelques dizaines de cas par an. Et puis, probablement, un couple de Néerlandais, avant d'embarquer sur cette croisière, est allé en forêt, parce que c'est une maladie qui est liée à des rongeurs qui vivent dans la forêt, et ensuite sont tombés malades sur le bateau, et puis il y a eu de la transmission sur le bateau. Donc un événement qui est lié à l'arrivée sur un bateau de personnes qui incubaient une maladie, et qui ensuite s'est transmise de personne en personne, dans un contexte très particulier de personnes sur des bateaux.
Elle est très mortelle, cette maladie, mais elle n'est pas très contagieuse. Est-ce que c'est juste de dire ça comme ça?
Oui, c'est très bien résumé, enfin. La létalité, le nombre de décès par rapport au nombre de cas, est entre 20 et même jusqu'à 50%. Par contre, ça se transmet très mal.
Ça se transmet très mal. On sait que le couple en question, l'homme puis la femme, sont décédés. Une troisième personne ensuite. Et aujourd'hui, il y a des cas contacts. On recherche chaque personne, chaque individu dans le monde qui aurait pu être en contact à un moment ou à un autre avec ce couple. Puis les autres, est-ce qu'on peut ce matin se dire que l'OMS se veut rassurant, qu'il n'y a pas de risque d'épidémie? Est-ce que c'est trop rassurant de dire ça, ou est-ce qu'en effet on peut être calme?
Je pense qu'il faut rester calme en étant très vigilant. Il y a vraiment une différence majeure, par exemple, parce qu'on se demandait s'il n'allait pas y avoir une épidémie, une pandémie. On n'a pas du tout affaire au même type de virus que SARS-CoV-2. La transmissibilité est beaucoup moins importante. Par contre, vous avez vu, le risque de décès chez les personnes qui attrapent ce virus est plus important qu'avec SARS-CoV-2.
Un Français cas contact qui a des symptômes légers, certes. Alors, il n'était pas sur le bateau, mais il a, semble-t-il, pris un avion avec un malade. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce que les autorités sanitaires gèrent?
Il faudrait leur demander, mais comment on doit le gérer? C'est très clairement, la personne doit s'isoler en attendant d'avoir confirmation ou infirmation du fait qu'il s'agit bien de l'antivirose et pas de n'importe quelle autre maladie, puisque avec tous ces cas contacts, il peut y avoir des personnes qui, par hasard, incubent une autre maladie beaucoup moins importante. Donc la première chose à faire, c'est de s'isoler et de faire le diagnostic. Oui. La deuxième chose à faire après, c'est de, une prise en charge à l'hôpital s'il y a vraiment une hantavirose.
Mais si les
pour l'instant, j'ai pas la confirmation.
Si, la confirmation. Non, le test a été fait, mais je crois qu'on n'a pas encore tout à fait les résultats de manière officielle. Merci beaucoup, professeur Renaud Piarou, d'avoir été avec nous pour nous expliquer ce matin ce qu'il en est. Chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. Il est 7h48, ils sont rentrés dans ce studio. Je suis cernée. La voix de droite et la voix de gauche. Cécile Duflot d'un côté et Charles Consigny de l'autre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On le voit bien, la course à 2027, elle est lancée un an avant les élections. Le premier à avoir dégainé, c'était Jean-Luc Mélenchon qui a officialisé donc dimanche sa candidature. La gauche hors LFI peut-elle rivaliser ? Face au RN, est-ce que la droite et le centre peuvent s'unir ? Vous en débattez dans un instant tous les deux. Et vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
C'est vendredi, le débat, droite-gauche, Charles Consigny, Cécile Duflot, bonjour à tous les deux. La course à la présidentielle de 2027, elle est clairement lancée. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon a donc officialisé sa candidature, quatrième candidature. Est-ce qu'il écrase tout, Jean-Luc Mélenchon, avec cette candidature ? Est-ce qu'il peut réussir son pari ? D'abord, Cécile.
Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on ne sait jamais exactement comment finit une campagne présidentielle, ouais. Et encore moins un an avant. Mmh. Si on accepte la dernière qui était très particulière après le Covid, à la même période, il y a 10 ans, c'était sûr, Alain Juppé allait être président de la République.
C'est vrai que c'est ça. Mmh.
Et il y a 15 ans, c'était Dominique Strauss-Kahn. Mmh. Le 8 mai 2011, c'était sûr, Dominique Strauss-Kahn était le président évident. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder les choses avec prudence. Et je crois aussi que là, on va être dans un moment où les Françaises et les Français, à mon avis, vont attendre qu'il se passe un peu quelque chose.
Mais il a quand même pris tout le monde de vitesse.
Enfin, en même temps, je sais pas qui était surpris qu'il soit candidat. On a l'impression qu'il est candidat non-stop depuis la dernière présidentielle.
Charles.
La gauche est dans une situation paradoxale avec un excellent candidat de premier tour qui est Jean-Luc Mélenchon et qui est en même temps leur pire candidat pour le second tour. J'ai lu que François Hollande, qui vient de lancer les jeunes avec Hollande...
Oui. Tout à fait, c'est vrai que j'ai vu cette information également passer.
Moi, j'aimerais bien les rencontrer, les jeunes avec Hollande. Ça m'intéresse quand même. Parce que...
Je sens poindre une petite ironie chez vous, Charles.
Dans ce cas-là, faut quand même consulter. Mais je sais pas s'ils sont nombreux. Mais bon, j'aimerais les voir. En tout cas, j'ai vu que les hollandistes prédisent la fin du moment Mélenchon d'ici à cet été. Donc d'ici un mois et demi, soi-disant, Mélenchon aura baissé. Et ils pourront à ce moment-là, à partir de septembre, reprendre un avantage. Moi, ce que je vois en réalité, c'est que la gauche n'a pas de candidat. Pas de candidat au sens, pas de candidat qui est susceptible d'emporter une adhésion suffisante.
François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, François Ruffin, ils sont quand même très très nombreux
donc,
à être sur la ligne de départ.
Donc personne, autant dire personne, sans vouloir être méprisant. Je pense qu'il n'y en a aucun qui est capable vraiment de susciter un engouement, un enthousiasme dans le pays et que donc cette année n'est pas, enfin l'année prochaine n'est pas une élection pour la gauche.
L'année prochaine n'est pas une élection pour la gauche, Cécile Duflot ?
Je suis pas d'accord, et pas par l'absence de candidats, parce que effectivement, plus il y a de candidats, moins il y en a, mais c'est valable aussi à droite, d'une certaine manière. Et je crois qu'une des raisons, c'est qu'il y a une fatigue du côté homme providentiel, notamment parce que Emmanuel Macron a poussé jusqu'au bout du bout du bout du bout l'incarnation individuelle. Il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de gouvernement, et évidemment pas de parlement, il y a lui tout seul. Et je crois qu'il y a une grande fatigue globale à cette idée qu'on va mettre tout notre avenir dans les mains de quelqu'un. Et donc le sujet et le débat va peut-être être plus intéressant, c'est quelle solution, en particulier dans un monde extrêmement perturbé par des conflits armés très importants qui engagent les deux superpuissances de notre planète, par la crise écologique qui s'aggrave parallèlement à une crise géopolitique qui du coup fait peser de manière extrêmement forte
l'avenir,
et la question de notre modèle économique, notamment d'un modèle fortement consommateur de pétrole. Donc du coup, je crois qu'il va y avoir un débat sur les sujets de fond. En fait, il y a une attente, bizarrement, que cette élection présidentielle se fasse moins au nom des personnes, mais sur c'est quoi les solutions pour la France.
Mais ce serait merveilleux.
Je crois que ça peut arriver.
Si on était comme ça, dans cette approche dépassionnée de la politique, sur les sujets de fond, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que, malgré tout, l'élection présidentielle reste cette élection bizarre et un peu magique et un peu qui tient de l'épopée, où tout à coup, quelqu'un agrège à lui, comme ça, une espèce d'énergie et d'électricité. Et ça, je crains que ça n'ait pas changé. Malheureusement, il se trouve que pour l'instant, le seul qui arrive plutôt à faire ça, c'est le jeune Bardella, qui, à mon sens, aussi n'est pas un vrai candidat non plus, puisqu'il a,
pourquoi,
parce qu'il a pas l'âge requis pour le poste. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que, moi, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'ai bien vu, en quelques années, la maturité qu'on prend, à
vous
cet
vous
âge-là.
Vous êtes mûr aujourd'hui,
Charles? Non, mais je me trouve, c'est pas ça, mais je vois bien que je suis plus mûr qu'à 25 ans.
Donc vous êtes prêt?
Oui.
C'est ça que vous êtes en train de dire ce matin.
Moi, je suis bien plus prêt que le jeune Bardella, oui.
Ah.
Donc, en tout cas, ce que je constate, c'est que il y a une espèce d'intérêt vers lui, et donc très personnel, même si derrière, là où je rejoins Cécile, c'est pas tant une question de programme qu'une question de machine, c'est-à-dire qu'il y a toute la machine électorale du RN.
Disons un mot aussi du centre, Édouard Philippe, Gabriel Attal, ça vous paraît crédible, pas crédible?
C'est le même syndrome en fait, c'est-à-dire que, et je crois, et ça n'est pas du coup une formule, c'est que justement parce qu'il n'y a pas cette électricité et la personne qui est rend tout attractif, qu'il y a de l'espace pour que le processus se fasse dans l'autre sens. C'est-à-dire, je suis d'accord en partie avec Charles sur l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une histoire qui se crée autour d'une personne à qui on fait quand même un minimum confiance. Mais cette confiance, elle peut aussi procéder de la manière de gouverner. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que je crois que, en fait,
Édouard Philippe, Gabriel Attal, vous trouvez qu'ils jouent là-dessus?
Bah, en fait, c'est juste la continuation de l'histoire qu'on connaît.
C'est les deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron.
Après, moi, je suis à l'ancienne. Donc, je suis toujours très gênée quand des gens ont eu une existence politique qu'ils n'avaient pas avant, uniquement à cause de quelqu'un, en l'occurrence là du président de la République, et qu'ils expliquent qu'ils sont totalement différents, qu'ils lui doivent rien, qu'ils ont leur existence propre. Et en fait, je crois que d'ailleurs que ça marche jamais vraiment bien.
Quoi, c'est l'ingratitude?
Ça donne un sentiment quand même pas très sympa de quelqu'un qui peut faire ça et se retourner contre celui qui lui a donné sa stature. Ça gêne toujours.
Là-dessus, Charles?
Non, s'agissant du jeune Attal, il va pas aimer ce que je vais dire, mais pour moi, c'est quand même un peu la Macronie dans ses pires travers. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de com, peu de fond et pas de position claire ni de ligne claire. Je dis les choses comme je les pense, si c'est très bien ce que je pense.
Il va finir par être d'accord avec moi sur la question.
D'accord tous les deux.
Non, et Édouard Philippe, je pense que tout le monde enterre Édouard Philippe. Moi, je ne l'enterre pas parce que je constate que depuis quand même maintenant de nombreuses années, il arrive à rester quand même dans la course, il est dans une espèce de course de fond. Et son côté président de la France, Peugeot 5008, France à peu près prospère, des gens qui gèrent bien leur vie, qui veulent pas que ce soit trop le bordel, un peu plus calme que Macron, plus raisonnable, je trouve que c'est pas un positionnement idiot. La seule chose, à mon sens, à laquelle il doit faire attention, c'est que son affaire ne devienne pas le radeau de la Méduse avec tous les losers qui s'agglutinent autour de lui pour essayer de survivre. Ça, faut qu'il fasse gaffe.
Ça ferait pas rêver, c'est sûr. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir débattu. C'est le coup d'envoi de la présidentielle. Ça se passe sur RMC, bien sûr. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant. La météo et le journal, à la une du journal de 8h. L'homme de 23 ans a avoué le meurtre de Chloé dans l'Aisne. Témoignage d'une amie à suivre, vous l'entendrez. Et puis, juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, face à la crise, les Français plébiscitent le cash.
Oui, pour faire des économies et puis un peu de. Qu'est-ce que je veux dire?
Ça veut dire quoi? Un petit peu de black?
Un petit peu de travail au noir.
C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui,
allez, vous allez nous le dire dans un instant.
De la main à la main, comme on dit.
7h58, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il va être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. L'homme de 23 ans, ancien petit ami de Chloé, passé aux aveux en garde à vue, suspecté d'avoir tué la collégienne de 14 ans, menacé de mort quelques semaines avant les faits, selon les amis de la jeune victime. Il témoigne ce matin sur RMC. Une broutille, le mot choisi par Donald Trump pour qualifier les échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran hier dans le détroit d'Ormuz. Pas de quoi menacer le cessez-le-feu, dit le président américain. Et la chasse aux billets qui débute 22 jours avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.
L'émotion toujours très vive ce matin à Ferrentard-de-Noix dans l'Aisne.
Là où Chloé, jeune collégienne de 14 ans, a été retrouvée morte mercredi matin, tuée de plusieurs coups de couteau portés par son ex-petit ami. Un homme de 23 ans vivant à Soissons au domicile de ses parents. Il va être présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, le suspect a partiellement reconnu les faits en garde à vue. Il dit avoir porté les coups, mais rejette la volonté de tuer. Pourtant, selon ce témoignage RMC BFM TV, des amis de la jeune victime, l'homme s'était montré menaçant par le passé envers la collégienne. Pierre Bazin.
Oui, face aux enquêteurs, Camille et ses amis racontent cet appel téléphonique violent avec le jeune homme 10 jours avant la mort de Chloé. Un appel qui visait à apaiser la haine du suspect envers la victime, selon eux. Mais pendant plusieurs minutes, le jeune homme de 23 ans multiplie les menaces de mort à l'encontre du groupe.
On l'appelle et de là, il commence à nous insulter. Il dit « Ouais, moi j'ai un ami qui arrive de Paris avec des armes et tout ». Ah bah moi je dis c'est un fou ce gars, pour nous dire ouais venez là je vais vous éclater, enfin je vais vous tuer, je vais vous poignarder machin. J'ai les fous ce gars, enfin là à dire des trucs comme ça à des gens qu'il connaît pas, à une gamine, enfin je veux dire ouais non c'est sûr et certain que c'est lui.
Cet appel Camille l'a enregistré et l'a donné aux gendarmes. Nous avons d'ailleurs pu l'écouter et constater la violence des propos tenus. Selon la témoin, le suspect avait également menacé de mort Chloé, la jeune victime, quelques semaines avant le drame.
Il était jaloux qu'elle se soit remise en couple avec quelqu'un. Il a voulu que pour elle et il voulait que Chloé soit que à lui. C'est prémédité, c'était pas possible autrement.
Depuis le décès de Chloé, Camille nous confie qu'elle ne peut s'empêcher de repenser à cette conversation glaçante.
Le cessez-le-feu fragile mais toujours en vigueur ce matin au Moyen-Orient. Donald Trump le confirme. En dépit de l'attaque par l'Iran de 3 navires américains hier dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont répliqué, accusés par Téhéran d'avoir violé la trêve. Mais à en croire le président américain, cette reprise des hostilités ne signifie pas la reprise de la guerre.
Ils ont joué avec nous aujourd'hui, nous les avons balayés. Ils ont joué, j'appelle ça une broutille. Je vous le dirai quand il n'y aura plus de cessez-le-feu. Mais il fera mieux de signer l'accord rapidement. Les négociations se passent très bien, mais il faut qu'ils comprennent. S'il n'y a pas d'accord, ils vont beaucoup souffrir.
Et des mots qui semblent rassurer les marchés. Ce matin, le cours du pétrole continue de baisser très légèrement à 100 $. Il va falloir que ça dure pour voir un impact sur les prix à la pompe. Ici en France, à l'heure où Total Energy se retrouve dans le viseur cette fois des distributeurs indépendants, ils dénoncent un abus de position dominante du groupe pétrolier qui maintient le plafonnement sur les prix des carburants. Et ils ont saisi, Victor Joannin, l'autorité de la concurrence.
Depuis le début de l'opération plafonnement, il y a près de 2 mois, les stations-service indépendantes ont vu leurs clients fuir pour aller faire leur plein chez Total, car ces stations ne peuvent pas être compétitives. Et pour cause, Total produit et raffine du carburant qu'il fournit à un prix avantageux à ses propres stations, mais pas aux autres. La compagnie pétrolière en a le droit, sauf si l'autorité de la concurrence estime qu'elle est en position dominante. Total, c'est 1/3 des stations et 50% du raffinage en France, et que cette position dominante lui permet d'écraser la concurrence. L'enquête de l'autorité va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, elle sera confidentielle. Total risque une amende jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial. La compagnie qui ne souhaite pas réagir à cette attaque juridique.
Un risque de propagation limité, l'OMS se veut rassurante à propos du foyer d'antivirus apparu sur un bateau de croisière. Ce n'est ni le début d'une épidémie, ni celui d'une pandémie. 3 personnes ont été tuées à bord du navire désormais attendu aux Canaries. Dimanche, ces passagers seront débarqués en début de semaine prochaine. Parmi eux, 5 Français rapatriés dans la foulée. 8 autres Français n'ayant pas pris part à la croisière ont à ce jour été identifiés comme cas contact. L'un d'eux a été testé, les résultats d'analyse sont en cours. Si vous passez le bac cette année, pensez à réviser votre grammaire, votre syntaxe, votre orthographe, scruté de près par les examinateurs. À la demande du ministre de l'Éducation nationale, les élèves qui rendront des copies mal rédigées pourront ne pas avoir leur bac, dit Édouard Geffray, qui veut renforcer les règles de notation. Et toutes les matières sont concernées, Bérangère Bocquillon, même les mathématiques.
Oui, puisque l'orthographe n'était plus prioritaire dans les disciplines scientifiques, reconnaît le ministre de l'Éducation. Et même si les barèmes de notation du bac ne sont pas encore sortis, ces déclarations déplaisent à Pierre Prioré, professeur de mathématiques à Toulouse et élu SNES FSU.
On vient de réécrire les 11 programmes de mathématiques de la 6e à la terminale. Ça, c'est sûr que dans les programmes, il n'y a pas le mot orthographe. La correction de la langue ne fait pas partie des objectifs d'apprentissage en mathématiques. Ça reste une épreuve de mathématiques et ça doit rester une épreuve de mathématiques.
Mais d'autres enseignants attendaient cette décision depuis longtemps, comme Loïc Vatin, professeur de mathématiques en lycée et élu du syndicat SNALC.
Il était temps, d'ailleurs j'y croyais plus du tout. Les consignes qu'on avait étaient d'une grande mensuétude concernant l'orthographe. C'est vraiment un changement de cap assez radical.
Et s'il salue cette décision, il espère pour les élèves qu'elle sera mise en place progressivement.
Quand je vois les copies que j'ai encore chez un très bon établissement, qui sont quand même truffées de fautes d'orthographe, il va falloir y aller doucement, parce que sans ça, il y a beaucoup de points qui peuvent partir.
Le ministre précise qu'il préfère avoir quelques bacheliers en moins, plutôt que de fabriquer chez eux de la frustration sur la suite de leur parcours.
La fin du rêve européen pour Strasbourg, éliminé en demi-finale de Ligue Conférence, battu comme à l'aller 1-0 par le Rayo Vallecano qui affrontera les Anglais de Crystal Palace en finale. En Ligue Europa, Fribourg sera opposé aux Anglais d'Aston Villa. En Ligue des Champions, le PSG défiera les Anglais d'Arsenal. Le compte à rebours est lancé, la billetterie aussi, dès aujourd'hui pour les plus fidèles abonnés au Parc des Princes, première des 3 phases de vente. Et le rêve pour de nombreux supporters parisiens, être à la Puskás Arena le 30 mai prochain à Budapest, coûte que écoute. Reportage Marion Gauthier.
Il fait de grands gestes, ouvre sa veste et montre fièrement son maillot aux couleurs du PSG à Aaron Trépigne depuis la victoire en demi-finale.
Quand ça a sifflé, dans la tête ça a dit, on est obligé d'y aller.
Combien vous êtes prêts à mettre ?
Des sommes, il n'y a pas de prix pour Paris. Bon, je supporte Paris depuis que je suis petit, c'est mon club, c'est ma raison de vivre madame, je suis obligé d'y aller.
De l'émotion encore, un peu de fatigue aussi pour Valentin et Johan, un sac de voyage à leurs pieds.
On revient de Munich en quart, donc avec les supporters, ça parle organisation.
Évidemment qu'on y pense tout de suite, quoi. Budapest ça fait rêver, on y croit, on y sera.
On a réussi à trouver des billets d'avion aller-retour pour un budget très correct, une centaine d'euros.
Mais les prix ont déjà augmenté et François-Xavier envisage l'avion jusqu'à Vienne.
Et ensuite de louer une voiture de Vienne à Budapest, c'est 3 heures à peu près. C'est une belle destination de fête, je pense qu'on va se marrer. On va essayer de ne pas dépasser les 1000 euros au total, quoi.
Tous espèrent réussir à trouver des places pour le stade.
Billet ou pas billet, logement ou pas logement, on trouvera moyen d'être le plus proche possible de nos joueurs. Je suis hyper excité, je suis un peu stressé. Les 3 prochaines semaines vont être hyper longues. À se refaire les matchs, les boucles WhatsApp vont chauffer pendant 3 semaines là.
Rêve d'histoire, dit-il, de voir une deuxième victoire de son club en Ligue des Champions.
Et pour les autres, le PSG réfléchit à une retransmission comme l'an dernier au Parc des Princes. Les Parisiens, qui pourraient être sacrés champions de France dès ce week-end, il faudra pour cela s'imposer dimanche soir face à Brest, à moins que Lens ne soit battu ce soir face à Nantes. Les Nantais menacent de relégation, 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, à vivre dès ce soir sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel, on parle sous.
Bonjour
ce matin,
tous.
Mais quand je dis sous, c'est vraiment sous, c'est-à-dire on parle argent liquide parce que les Français, à nouveau, plébiscitent le cash.
Oui, c'est vrai, depuis le début de la crise en Iran et donc de la crise énergétique, 12% des Français ont changé leurs habitudes de paiement, privilégiant l'espèce, notamment sur la carte bancaire. C'est ce que montre un sondage que publie Elab pour BFM TV. Ce comportement, alors on pouvait s'en douter, est plus répandu parmi les ménages les plus modestes. 17% de ceux qui peinent à boucler leur fin de mois ont davantage recours au cash. Mais attention, même des Français qui disent n'avoir aucune difficulté financière se mettent à préférer le liquide. 1 sur 10 environ.
Alors pourquoi ? Pourquoi ce regain d'intérêt pour les pièces, pour les billets ?
Alors la première explication, c'est que ça permet de faire des économies. Rappelez-vous, hein, qu'en 2022-2023 avait bien fonctionné la méthode des enveloppes, et eh bien c'est...
Se dire, je pars avec un billet, je ne dépense pas plus que
le
billet.
C'est le retour des enveloppes. Voilà, vous mettez un billet, une enveloppe, et c'est votre budget pour tel poste pour la semaine ou pour le mois. Ça permet de mieux contrôler ses dépenses. On a un tiers des Français qui utilisent ce système, surtout des jeunes. Et puis la guerre a créé aussi un climat de défiance. Alors pas tellement un climat de défiance vis-à-vis des banques, mais vis-à-vis des infrastructures, des réseaux de paiement qui pourraient être touchés, pourquoi pas, par des cyberattaques venues de pays qui sont un petit peu partie prenante du conflit. Et puis, faut pas se cacher la vérité, Apolline, les difficultés économiques dans un pays surfiscalisé poussent au travail au noir, avec des particuliers qui vont chercher des petits boulots pour mettre du beurre dans les épinards, et puis bah, de l'autre, des particuliers qui sont bien contents qu'on leur rende des services qui peuvent payer de la main à la main. Et je rappelle quand même ces chiffres qui sont sortis hier sur la surfiscalisation. Hein. On a des recettes fiscales qui ont augmenté 3 fois plus vite que la croissance, et on n'a jamais eu autant de Français qui ont payé d'impôts que l'an dernier. Donc oui, effectivement, c'est un peu une soupape de sécurité, de respiration financière.
Merci Emmanuel. Comme chaque jour sur RMC, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend ?
Alors le gazole, vous savez qu'on a une petite baisse, mais qui est liée au retour... pendant les ponts de la ristourne totale, qui a abaissé son plafond, mais on est quand même à 1,5 centime sur le gazole de plus qu'il y a une semaine. Le sans-plomb 95, 2,04 € le litre, ça continue à monter. On a un pétrole qui reste étrangement apathique ce matin, compte tenu de ce qui s'est passé cette nuit au Moyen-Orient avec ses frappes, 101 € le baril, et puis le gaz qui est toujours stable depuis une semaine autour de 45 € le mégawatt.
Merci Emmanuel.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et on part au 32-16. Benjamin, on part en Bourgogne, vous retrouvez puisque vous êtes dans Lyon. Bonjour Benjamin.
Bonjour Apolline.
Patron de bar, et ça vous a frappé ce matin, ces réactions des uns et des autres, des parents notamment qui disent que leurs enfants sont hyper enthousiastes à l'idée d'intégrer des classes dites défense, qui sont encadrées, entourées aussi par un certain nombre de militaires qui les sensibilisent aux différents métiers. Comment vous réagissez-vous Benjamin ?
Ah mais moi je suis très fier de notre jeunesse, hein, tout simplement.
Ouais, c'est ça, une fierté de la jeunesse. Vous en parlez, vous, dans le bar ?
Pas vraiment, parce que voilà, mais c'est vrai que j'écoute souvent toutes les chroniques et je suis très fier de notre jeunesse.
Elle est là, la jeunesse. Alors vous, j'ose le dire, Benjamin, vous êtes un tout petit peu moins jeune aujourd'hui. Bon anniversaire.
Merci beaucoup.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire, Benjamin. Vous avez quel âge aujourd'hui, on peut le dire ou pas?
Oui, bien sûr, 52.
52, et vous allez faire quoi? C'est sympa de s'offrir un jour férié, je trouve, pour son anniversaire.
Bah oui, mais je suis au boulot quand même. Hein.
Mais au boulot quand même, au boulot, le bar est ouvert, il est où le bar exactement?
Je vous l'avais déjà dit, je vous avais invité à boire un café.
Je m'en souviens, mais on va partager un peu avec les auditeurs.
Je suis à Saint-Fargeau dans Lyon.
À Saint-Fargeau dans Lyon, le bar il s'appelle
Le Bar du Commerce.
Le Bar du Commerce, c'est le jour ou jamais, franchement, de passer.
Venez souhaiter un bon anniversaire au patron.
Allez souhaiter un bon anniversaire au patron. Donc à Saint-Fargeau, on vous embrasse, Benjamin. Félicitations à vous. Très bel anniversaire. Il est 8h12. Et dans un instant. Le meilleur d'Arnaud de Manche. Et puis notez qu'à 8h30, mon invité, ce sera Didier François, le génial éditorialiste, j'ose le dire, parce qu'il est vraiment formidable, Didier François. Il est souvent avec moi sur BFM et on a particulièrement besoin de ses lumières ce matin pour essayer de comprendre le décalage entre les mots et les actes. Parce que cette nuit, l'Iran dit avoir visé des intérêts militaires américains, deux destroyers américains qui ont été touchés dans le détroit. Les Américains, eux, ont frappé l'une des îles iraniennes du détroit d'Ormuz. Et en même temps, Donald Trump nous dit que c'est une broutille. L'Iran dit que le cessez-le-feu continue. Alors, quel est le vrai du faux? On fait le point à 8h30 ce matin avec Didier François. Il est 8h13.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 sur RMC. Arnaud Demange revient lundi. Vous inquiétez pas, il se repose, mais il sera de retour très en forme lundi. On vous en a gardé le meilleur. Arnaud, tiens, ce matin, on voudrait que vous l'entendiez. Il revenait, souvenez-vous, sur la crise des carburants.
Vous me connaissez maintenant.
Oui.
Vous savez, je suis pas du genre bling bling, non, à me la péter, showbiz, pognon et tout. Hein. Mais enfin, samedi, quand même, j'ai fait le plein de la Twingo.
Waouh,
les bifetons ont volé. À un moment, j'en avais pour 39,94€. Comme tout le monde, je me suis dit, allez, je vais appuyer un tout petit peu pour arrondir. Schling, 87€ d'un coup. Pouf.
Ça finit c'est pour moi, c'est plus pour moi.
Ah ouais.
C'est ma tournée.
Allez, c'est ma tournée. Ça va finir par coûter plus cher que de prendre le TGV, hein, cette connerie.
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, fait l'objet de rumeurs sur son état de santé. Il n'est toujours pas apparu publiquement.
Oui, il serait dans le coma. Quelle idée de nommer un demi-mort à la tête d'un État. Enfin, c'est comme si Emmanuel Macron nommait Balladur à Matignon. Pourquoi les Iraniens l'ont choisi? Bon, je pense qu'ils se sont dit, quitte à ce que les États-Unis nous dégomment le suivant, autant en prendre un qui a déjà un pied dans le trou, on y perdra moins. En plus, les valides, ils voulaient pas y aller. Hein.
Bah, bien sûr.
Donc lui, il était dans le coma, il a pas pu dire non, les autres ont demandé, tu veux être guide suprême? Ok, il est d'accord,
c'est
du morse. Ça me rappelle les plus beaux discours de Bouteflika. Les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour des infos sur les dirigeants iraniens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des photos des mollahs, mais avant les bombardements. Donc forcément, vous vous souvenez, sur l'IA d'Elon Musk, il y avait une option, Digrok, mets cette fille en maillot de bain. Faudrait la remplacer par Digrok. À quoi ressemblerait ce dirigeant iranien s'il avait reçu un immeuble sur la tronche? Parce que là, on saurait, ce serait beaucoup plus simple.
À Paris, oui. L'ancien appartement de Claude François est de nouveau à vendre.
Oui, alors là, j'ai un petit message perso. Ah. J'embrasse d'avance André, qui est une vraie auditrice à nous. Elle est vendéenne et elle m'écrit pour me gronder à chaque fois que je fais une vanne sur Claude François. C'est systématique. Hein. 10 minutes après, j'ai toujours un message. Alors, André, pardonne-moi et commence à rédiger ta lettre.
On y va,
car dans le 17e, l'appart de Clo-Clo est à vendre. 1,7 million pour 77 mètres carrés. L'électricité a été refaite quand même. Cette fois, c'est aux normes. Par contre, alors j'ai visité, il y a des trucs qui vont pas. Hein. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Donc, il faut régler. Il y a des travaux à faire. Moi, je sais que si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Les voisins, ils feraient la gueule. Alors, il y a une cave avec dedans trois vieilles qui font
« Laissez-nous sortir !» Claude nous a enfermés en 76, on avait 14 ans, il voulait qu'on soit rien qu'à lui. On était là avec juste une ampoule pour la lumière. Un jour, on a entendu, l'ampoule s'est éteinte et depuis, plus de nouvelles.
Mais non.
J'espère qu'il va bien, il va bien. Non mais rassurez-moi.
Non mais ce qu'il le disait, Clo-Clo, dans ses interviews. Les femmes, après 18 ans, j'aime moins, elles réfléchissent, c'est pénible. Il est mort trop tôt. Hein. Il est mort trop tôt, en 78, bien avant de pouvoir rencontrer Jeffrey Epstein et devenir son best friend forever. Ils auraient chanté des belles chansons. Elles sont toutes belles, belles, belles. Puis après, elles ont des poils. Ça, c'est l'auditrice. Ça, c'est André qui m'écrit. Hein. Elle me dit,
on était très bien dans cette cave. Arrêtez d'être méchant avec Clo-Clo.
J'arrête. C'est promis.
Vous faites un peu Clo-Clo avec la voix d'Alain Juppé.
Ah bon?
Ah ouais.
Oh, il y a un truc dans le nez. Clo-Clo Juppé. À demain.
Le meilleur d'Arnaud Demange. Et il est 8h20. Comme promis, c'est l'heure de vous offrir vos vacances. Et celui qui a gagné le séjour Bel Embrun, c'est vous, Miguel. Bonjour, Miguel.
Allô?
Oui, Miguel, c'est
oui.
Vous, bravo.
Bonjour tout le monde. Bonjour, Apolline.
C'est Apolline.
Oui, je sais.
Eh bien, Miguel, félicitations.
Ben, merci. Là, je reviens pas encore, en fait, pour tout vous dire. Je suis un peu, ouais.
C'est super, vous êtes où? Vous faites quoi dans la vie?
Ben, moi, je suis technico-commercial.
Ouais.
J'habite dans les Hauts-de-Seine, en Antony.
Ok.
Et puis voilà, ce matin, je suis venu un peu plus tôt. Je travaille pas, mais enfin, j'ai du boulot à la maison.
Ok.
En fait, je dois refaire toute ma cuisine.
Ah, donc vous bricoliez ce matin, vous êtes déjà allumé
la
radio, quoi.
La peinture.
Peinture, vous avez très, très, très bien fait. Parce que vous allez avoir non seulement la cuisine, mais en plus les vacances.
Bah oui, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Ça fait des années et des années que je vous écoute, vous, et puis toutes vos émissions. Bah, RMC depuis 2002. Ça fait très longtemps.
C'est bien, ça. C'est beau, ça, dis donc. C'est...
Donc j'y crois toujours pas.
Eh bah, ben si, moi, je vous le dis, Miguel, c'est vous qui avez gagné. Et franchement, c'est un très, très grand plaisir. D'abord, c'est génial de. Bah, ça nous fait toujours plaisir à nous, à Mathieu.
Il était là avant nous, tout ça.
Ouais, vous étiez là avant nous, en fait. Hein.
Bien sûr.
Ouais.
Ah non, mais c'est toute la bande. C'est toutes les émissions que je dis, je suis très fan, voilà.
En fait, vous nous avez vu grandir, quoi.
Oui, surtout vous, oui.
C'est sûr. Bon, à force d'être jeune, je suis plus si jeune, hein, on le dit comme ça.
Oui, mais... plus que moi, c'est sûr.
Oui, mais ça fait grand plaisir. Écoutez, Miguel, en tout cas, félicitations, c'est un super plaisir. Alors, d'abord, bonne journée de bricolage, et puis ensuite, bonnes vacances, on peut le dire déjà, Miguel, parce que vous allez pouvoir choisir entre 45 destinations dans les plus beaux endroits de France, mer ou montagne avec Bel Embrun. Très belle journée, Miguel.
Oui.
Bon huit alors.
Un petit mot pour votre collaborateur
ouais.
À côté de vous. Donc, en fait, moi, je suis très, très fan du Real. Mais je ne le dis pas très fort. Mais donc, allez Paris pour notre collaborateur.
C'est
qu'il adore ça.
C'est entendu.
On
le murmure, on ne le dira à personne.
On ne le dit à personne, mais il est bien content. On vous embrasse, Miguel. Salut et bonnes vacances. Il est 8h22. Dans un instant, le face-à-face.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embrun. Bel Embrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Et mon invité dans un instant, c'est Didier François. Didier François, le spécialiste de la défense, parce qu'on a bien besoin de comprendre ce qu'il se joue. Ça se passe sur RMC et BFM TV, mais sur RMC Story. Vous restez avec Mathieu.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Didier François.
Bonjour.
Plaisir de prendre le temps avec vous ce matin parce qu'évidemment on vous connaît bien, éditorialiste défense de BFM TV. Et on a particulièrement besoin de vos lumières pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit et pour comprendre aussi le décalage entre les mots et les faits. Ce qu'il se joue sur le terrain et les paroles des uns et des autres. Des destroyers américains touchés, des îles iraniennes visées, les Émirats Arabes Unis qui parallèlement activent leur défense aérienne et pourtant officiellement une broutille. Nous dit Donald Trump. Commençons par les faits. Que s'est-il passé cette nuit?
Alors cette nuit, en fait, à 22h20 en heure universelle, il y a eu une véritable bataille navale dans le détroit d'Ormuz. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, 110 minutes, c'est pratiquement 2 heures. Et en plus, il y a 3 navires de guerre américains, des frégates, et particulièrement des frégates antimissiles, qui ont décidé de re-rentrer à l'intérieur du golfe Persique, donc de traverser l'étroit d'Ormuz en venant de l'océan Indien. Et ils ont été pris très, très violemment à partie par les gardiens de la Révolution qui ont vraiment essayé d'utiliser tout ce qu'ils avaient pour les en empêcher.
Comment ? Quels moyens ?
Alors, les moyens qu'ils ont utilisés, vraiment, ils ont tiré toute la gamme. Du missile anti-navire, Donc ce sont des missiles qui rasent les flots et qui normalement se bloquent sur la cible et cherchent à toucher en général la salle des machines pour les exploser. Donc ça, c'est du missile de type chinois C-802 pour les spécialistes. Enfin bon, voilà. Ils ont utilisé des drones kamikazes pour essayer aussi de saturer la défense antiaérienne rapprochée des navires, parce que les navires, ils ont de la défense lointaine. Les destroyers américains, sont des destroyers de la classe Harley Burke qui font de la défense antimissile. Donc ils ont traité les missiles. Ils ont traité ensuite les drones kamikazes avec les armes de bord, et particulièrement avec un truc qui s'appelle le Phalanx. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les films, c'est une espèce de mitrailleuse rotative qui tire très 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 vite un nombre très considérable de munitions. Et puis ensuite, il y avait des vedettes rapides qui sont arrivées en essaim pour essayer de saturer les défenses immédiates, et qui ont traité au canon de 127 et à la mitrailleuse lourde. C'est pour vous dire qu'on s'est rapproché extrêmement près, puisque
ça veut dire que physiquement, la distance de combat entre les destroyers américains et...
C'est quelques centaines de mètres.
C'est une véritable bataille navale.
Il y a une, pour que ça dure 110 minutes, donc presque 2 heures, ils ont vraiment été harcelés. Et les Iraniens ont mis tout ce qu'ils avaient à disposition pour essayer de toucher ces trois navires. Aucun n'a été endommagé. Tous les trois sont passés. Ils ont détruit l'ensemble des moyens qui avaient été engagés contre eux. Et dans la foulée, comme évidemment ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient entourés d'une bulle de protection, de renseignement, de guerre électronique, avec des avions AWACS qui surveillaient, des ravitailleurs en vol, des chasseurs. Dans la foulée, le CENTCOM et donc certainement le président Trump ont décidé d'aller frapper l'origine de l'attaque, l'île de Kejp, qui est juste en face de Oman. Je sais pas si vous voyez le détroit d'Ormuz, cette espèce de...
Désormais, je pense que tout le monde a en tête ce coude.
Cette espèce de coude, on est vraiment à la, juste à la pointe de ce coude-là. Hein, c'est un endroit qui s'appelle Moussadam. Et ils ont été frappés au-dessus de la grande île de Kejp, que maintenant tout le monde connaît.
Qui est l'île longue. Voilà.
Le port de Bandar Abbas, qui est le port essentiel des gardiens de la révolution, et un autre endroit qui s'appelle Minab, et qui était le centre de commandement de cette opération, par les Pazdaran. Là, donc ça a été détruit. Ils ont aussi détruit les lanceurs de missiles qui ont été repérés, certains assez loin, puisqu'il y en avait dans la région de Shiraz, donc à l'intérieur des terres iraniennes, mais ils les ont repérés pendant les tirs, et ils ont été détruire les lanceurs.
Parce que effectivement, en quelque sorte, ils étaient sortis.
Ils ont sorti du bois, si je puis dire. Enfin, en tout cas, de leur planque, et donc ils ont été repérés et détruits. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, un, on voit la volonté absolue des Iraniens de garder la main sur le détroit. Voilà, parce que quand même, ils ont, malgré le cessez-le-feu, essayé d'engager à nouveau, puisque les deux des navires qui étaient dans la bataille d'hier étaient les deux premiers navires qui, il y a 3 jours, vous rappelez, étaient passés, avaient pris déjà 16 missiles et les avaient arrêtés. Donc il y a quand même de la part des Iraniens une vraie volonté de garder le contrôle et même de s'attaquer à la marine américaine. La marine américaine a quand même montré un savoir-faire et un courage assez important, parce que rentrer dans ces eaux qui sont des
il faut oser.
Bah oui, parce qu'elles sont pas bien profondes, il y a pas beaucoup de place pour manœuvrer, faut vraiment être certain de ses capacités techniques. Hein,
ce qui s'est passé cette nuit manifeste la supériorité, ceux qui en sortent gagnants de cette bataille, alors, si militairement, je puis me permettre, militairement, ce sont les
militairement,
Américains.
Militairement, sans aucun doute, ce sont les Américains, puisque pour la troisième fois, leur navire rentre et les Iraniens se montrent incapables de les arrêter. En revanche, l'objectif qui était au départ celui du projet Freedom, là,
de libérer débloquer le détroit d'Hormuz.
Je pense que néanmoins cette opération montre que autant les navires militaires américains sont capables de se défendre et que le dispositif militaire américain est assez robuste pour qu'ils se permettent de risquer des destroyers et donc des hommes dans le détroit, autant pour les armateurs et les équipages des navires commerciaux et civils, on le voit bien avec le tir sur le vraquier, le porte-container de ces GACGM, là il y a un problème, parce que les navires civils, eux, n'ont pas cette capacité de défense. Et vous voyez bien que dans une opération de cette nature-là, quand bien même il y aurait eu les destroyers américains qui auraient fait barrage, il y aurait eu des risques que les vedettes contournent et touchent autant militairement, il n'y a aucun doute sur la supériorité, les capacités tactiques de la flotte américaine, autant pour mettre en confiance le trafic maritime commercial, là c'est un échec.
Didier François, on essaie de comprendre comment ça s'arrête ensuite. C'est-à-dire que ces 110 oui. minutes, on comprend, on a l'impression effectivement que c'est une sorte de tir croisé de feu non-stop, puis effectivement la riposte américaine sur l'île, et puis soudain les canons se taisent.
Alors déjà parce que les ennemis sont détruits. En général, la guerre, ça peut aussi arriver. Et là, pour le coup, les passes d'Aran ont été mis en échec. Et donc, leurs moyens ont été, en tout cas, les moyens engagés par les passes d'Aran ont été détruits. Alors, il leur en reste certainement, mais en tout cas, ils ont décidé que halte au feu, ça ne passait pas. Il valait mieux s'arrêter là. Donc voilà, ça d'un point de vue militaire. Après, la deuxième chose qui est intéressante dans cette affaire, c'est que les réactions des Iraniens, puisqu'on a eu un communiqué dès hier soir des gardiens de la Révolution qui expliquent qu'ils ont mis en défaite l'ennemi, qu'ils les ont fait reculer, mais qui ne remettent pas en cause le cessez-le-feu. Et pareil, côté américain, où Trump explique que finalement tout ça s'est très bien passé, que c'était magnifique, que c'était formidable, que les armes américaines sont extraordinaires, avec tous les superlatifs habituels, mais lui aussi ne remet pas en cause le cessez-le-feu. Et pendant cet incident, les négociations continuaient sur le fameux mémorandum d'entente.
On va y venir sur ces négociations et sur la raison pour laquelle l'un comme l'autre, au fond, alors que les combats font rage, parle toujours d'un cessez-le-feu. Mais est-ce que ça veut dire aussi que finalement l'Iran continue à avoir dans son panier des missiles, des drones kamikazes, des navettes rapides? Donc au fond, la capacité iranienne est encore très solide.
Elle existe, elle est réelle. Les estimations qui avaient été faites par les services de renseignement occidentaux, et enfin en tout cas en Europe, c'était qu'ils avaient certainement encore les moyens de tirer ce qu'ils tiraient avant le cessez-le-feu, donc il y a maintenant 3 semaines, environ 30 missiles balistiques par jour pendant 2 mois. Voilà. Là, on voit que sur les deux engagements qu'ils ont faits, à chaque fois, ils n'ont tiré qu'une quinzaine. Donc, ils ont encore du stock. C'est très difficile de savoir le stock qu'ils ont réellement parce qu'on connaît le stock de départ. On sait ce qu'ils ont tiré. En revanche, on ne sait pas ce qui a été détruit. La difficulté, c'est de trouver exactement ce qui a été détruit. On voit des rapports contradictoires entre le renseignement militaire américain et la CIA. Voilà. Il y a des discussions entre spécialistes. Honnêtement, on voit des tas de trucs dans la presse. Les spécialistes entre eux-mêmes hésitent et font à leurs autorités des rapports extrêmement prudents. En revanche, sur les drones, là pour le coup, on ne sait pas, parce que le drone, ça se produit pas sur des usines lourdes, ça peut se produire dans des ateliers, etc.
De manière plus rapide et moins chère.
Voilà. Donc là, honnêtement, personne n'a lisibilité sur les capacités drones réelles, qui sont sûrement existantes et sûrement nombreuses, parce que c'est une spécialité des Iraniens.
Il y a eu cette bataille, donc cette véritable bataille, 110 minutes, vous le dites, de feu croisé cette nuit. Et puis, il y a les Émirats Arabes Unis qui, parallèlement, disent avoir activé leur défense aérienne. À quoi est-ce que cela correspond? Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Ou qu'est-ce qu'ils ont anticipé qu'il puisse se passer?
Alors en fait, on est exactement dans la même phase qui a commencé il y a 3 jours avec le fameux projet de Freedom, Liberté. Donc qui était d'essayer d'ouvrir la route de circulation maritime sud d'Hormuz. Pas celle qui passe près de l'Iran, mais celle qui passe près de Oman et de l'Arabie Saoudite. Donc on voit qu'il y a eu 2 choses. Une attaque militaire contre les moyens militaires américains, ça on vient d'en parler. Et il y a eu parallèlement des attaques de missiles contre les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que ils voulaient taper sur le port pétrolier qui est hors du détroit d'Hormuz pour empêcher les Émirats Arabes Unis d'exporter justement son pétrole sans passer par Hormuz et mettre pression sur les Émirats Arabes Unis. On sait qu'il y a 2 jours, les Émirats Arabes Unis ont eux-mêmes fait une frappe de riposte exactement aux mêmes endroits que ceux qu'ont pris les Américains hier soir, entre autres avec des Mirage 2000-9. Ils ne l'ont pas rendu public parce que les Iraniens, parce que les Iraniens de leur côté aussi ont tiré,
donc, mais on dit non.
C'est la réponse du berger.
On ne les vise pas.
Absolument, réponse du berger à la bergère. Je tiens, tu me tiens pas la barbichette. On est dans quelque chose. Il faut bien comprendre ce qu'il y a. Ça paraît totalement contradictoire parce qu'on parle d'un côté de négociation et de l'autre côté on voit que ça tape dans tous les sens. En fait, c'est normal presque. Enfin, je veux dire, c'est idiot à dire, mais c'est presque normal parce que pendant les négociations, chacun veut mettre en avant ses forces. La force des Iraniens dans les négociations, c'est de bloquer Hormuz. Et donc ils veulent
donc on ne négocie bien qu'un pistolet sur la tempe.
Et exactement, c'est John Woo. Vous savez, quand les gars avec des se tournent autour avec des pistolets, c'est exactement ça. Donc les Iraniens veulent rentrer dans ces négociations. Eux, ils veulent obtenir une chose, c'est le déblocage de leur argent gelé et de leurs avoirs gelés depuis maintenant beaucoup d'années, mais surtout depuis 2018. Il y a une centaine de milliards. C'est très important pour eux et c'est au centre de leur demande. Les Américains, de leur côté, veulent le nucléaire. Ça, c'est très important. Et les pays de la région veulent les missiles balistiques et le soutien aux organisations terroristes. Donc, en fait, on est en train de...
Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que ça disparaisse.
Ils souhaitent que dans les négociations, il y ait la destruction de la capacité nucléaire
et la destruction des organisations terroristes.
La discussion, voilà, pour les pays de la région, c'est les missiles balistiques et la destruction des trucs.
Et de ce point de vue-là, il y a un intérêt à peu près commun entre les pays du Golfe et Israël.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, ce qu'on voit, les discussions en cours, c'est la préparation des négociations. Ce sont pas
nous
encore
les négociations. Nous ne sommes pas encore dans les négociations. Voilà. Nous sommes dans les pré-négociations.
Voilà, c'est ce qui, voilà, ils sont en train de négocier ce qu'on appelle un mémorandum d'entente. C'est-à-dire, ils se mettent d'accord sur de quoi on va parler. Les Américains veulent absolument parler du nucléaire. Ce que au départ ne voulait pas, de l'enrichissement et du stock d'uranium enrichi. Ce que au départ les Iraniens ne voulaient pas discuter. Les Iraniens voulaient absolument discuter de leur argent et est-ce que les Américains ne voulaient pas leur laisser, ils voulaient pas lever les sanctions tant que le reste était. Donc les
ce sont ces deux points-là sur lesquels véritablement on sent que c'est la clé.
C'est la clé. L'argent, ça a toujours été la clé pour les Iraniens, indépendamment de l'idéologie. On a eu le même problème qu'on avait le Eurodif.
C'est aussi un petit peu la clé pour les Américains, non?
Alors ça va l'être aussi, bien sûr, mais pour eux le nucléaire est quand même très très important. La menace nucléaire est réelle et par rapport à leurs alliés. Et la troisième chose qui reste, les missiles et le soutien aux groupes terroristes sera reporté à des discussions régionales entre les pays de la région et l'Iran après les discussions américano-iraniennes.
On va revenir aussi sur la question du rôle de la France avec le Charles de Gaulle. Absolument. qui est en route vers cela. Mais un mot, puisque vous parliez des renseignements et de leur grande prudence, à savoir quelles sont les capacités ou non de l'Iran. Il y a ce renseignement américain cité par l'agence Reuters qui croit savoir que l'Iran n'est qu'en réalité qu'à 12 mois de la bombe atomique. Est-ce que ça, c'est crédible ?
9 à 12 mois, c'est l'estimation générale si les Iraniens arrivent à militariser. Donc c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. Mais oui, à la louche, le problème d'avoir...
En tout cas, ils ne sont pas dans l'impossibilité...
Alors, il faudrait qu'ils aient l'accès à leur stock. Il faut qu'ils puissent passer à 90% depuis 60. Ça, c'est pas le plus difficile, mais enfin bon... Pas sous le feu, c'est compliqué. Mais ce qu'il y a d'inquiétant dans l'affaire, c'est que on s'est rendu compte que pendant les bombardements, ils avaient des équipes de scientifiques qui cherchaient la militarisation, puisque lors d'une frappe israélienne qui avait été faite en suivant un scientifique par hasard, ils ont frappé un endroit où ils ont rendu compte qu'il y avait 20 scientifiques qui étaient en train de travailler sur la militarisation de la bombe. Ça veut pas dire qu'elle l'est réalisée aujourd'hui. Il y a encore des tas de choses à faire, le détonateur, etc. Mais la volonté, en tout cas, elle est là. Et les stocks d'enrichissement d'uranium, 440 kilos, potentiellement, c'est 11 bombes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette question du nucléaire qui est portée. C'est pas immédiat comme menace, mais potentiellement, c'en est une réelle.
Didier François. Hormuz, bloqué ou pas bloqué, en vrai?
De fait, bloqué.
Toujours bloqué.
Oui, en fait, ça coule à filet d'eau et là, je pense que sur les prochains jours, les armateurs vont faire
très
attention.
Après la bataille de cette nuit, évidemment, la prudence sera de mise avec donc notre porte-avions.
Oui.
Qui a pris la route, qui a traversé le canal de Suez, qui est, j'imagine, quelque part dans la mer Rouge au moment où on se parle.
À la louche, hein, le porte-avions, il fait 700 km par jour, potentiellement 15-20 nœuds. Oui, lui et son groupe aéronaval, il faut à peu près 3 jours pour arriver sur la zone. Après, ça dépend de la mer, ça dépend de plein de trucs, mais il sera entre Djibouti et le Yémen, donc sur le détroit de Bab el-Mandeb dans les jours qui viennent.
L'endroit un peu crucial.
C'est crucial parce que c'est ce qu'on appelle, en termes militaires, la poignée de l'éventail. Ça leur permet à la fois de pouvoir ravitailler s'il y a besoin à Djibouti, de pouvoir rester en veille et en sécurité sur Bab el Mandeb, qui pour nous est un des trois importants, puisque le commerce avec l'Asie pour l'Europe passe par là, et d'être à 48 heures de la possibilité de se porter sur Hormuz si la situation diplomatique évolue et si l'idée qu'on avait, qui est d'essayer de créer une coalition internationale dans le cadre du droit sur la liberté de circulation, après la réunion du 17 avril à Paris avec une cinquantaine de pays, allait se concrétiser.
L'idée, j'en reviens à cela, parce que Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées, hier matin, disait que nous en avons pris le leadership avec les Britanniques, semble-t-il, mais les Britanniques n'ont pas la manifestation physique, ce qui est quand même, j'avoue, depuis le début de cette guerre, c'est aussi un des points qui est très surprenant, c'est-à-dire que la marine britannique n'est pas au rendez-vous.
C'est un drame.
N'est pas au rendez-vous.
C'est un drame. La marine britannique, c'était quand même... L'armée britannique, il faut bien savoir qu'en Europe, avec la France, c'était une des seules armées qui vraiment tenait la mer pour avec des capacités de combat, une expérience, une tradition, une culture. Honnêtement, le fait que l'armée britannique aille mal est une très mauvaise nouvelle pour les Européens et une très mauvaise nouvelle pour la France. C'est des problèmes de budget. Ils ont été encore plus loin dans les coupes que ce que nous avons fait, dans la privatisation d'un certain nombre de moyens. C'est une catastrophe, il ne faut vraiment pas faire ça.
Est-ce que, véritablement, nous avons pris le lead? Et pourquoi faire ?
Alors oui, on a pris le lead parce qu'on est les seuls, effectivement. On l'a vu depuis début mars. Hein. La première phase, rappelez-vous, on a quand même rappelé le porte-avions et l'ensemble de notre flotte pour aller protéger l'Union européenne face à Chypre. Deuxième phase, on est capable aujourd'hui, grâce à ce porte-avions qui est quand même une puissance incroyable, hein, on a la capacité de faire du renseignement, on a une vingtaine de rafales qui sont capables de faire absolument toutes les tâches. De ce point de vue-là, au même titre, alors moins que les Américains en termes de nombre, mais en capacité, ça permet d'être autonome en appréciation de situation, en renseignement, en coordination, en commandement, et donc de pouvoir mettre autour de nous un certain nombre de pays qui voudraient participer avec du déminage, avec de la négociation, avec de la logistique, avec des frégates de défense. On en a besoin vu ce que ça nous pèse. Enfin, parce que pour tous les gens qui disent qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, enfin, il suffit de voir le prix de l'essence pour comprendre que ça nous touche quand même.
Et justement, un mot pour le dire, vous l'avez vu évidemment à notre boutonnière. Vous comme moi, nous portons ces fameux bleuets. C'est une tradition. C'est un hommage aux soldats blessés, aux familles endeuillées, aux pupilles de la nation, aux victimes d'actes terroristes. 8 mai aujourd'hui, la mémoire au fond est particulièrement ravivée par le contexte actuel.
Mais c'est important, en fait. Vous voyez bien que, en fait, on se croyait dans un monde sans guerre pendant 70 ans et on a eu cette chance. Alors, nous, en Europe occidentale, la guerre, elle existe ailleurs. Moi, ça fait 40 ans que je couvre les guerres. Aujourd'hui, je pense que c'est important, le devoir de mémoire, de se rappeler, enfin, la guerre, on la veut pas toujours. Regardez nos grands-parents, ils ne la voulaient pas. En 38, on a essayé d'apaiser un dictateur qui nous a imposé la guerre et qui a envahi la France une année plus tard. La guerre, c'est pas parce qu'on ne la veut pas qu'on ne l'a pas. Donc, il vaut mieux savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on va.
Merci Didier François, éditorialiste défense à BFM TV. Un honneur. Il est 8h47. Merci. Ne bougez pas sur RMC dans un instant. La semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient notamment sur l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Cette semaine, Olivier Faure, le patron du PS, était l'invité du face-à-face et il est resté face à Canteloup. Rebonjour Olivier Faure.
Rebonjour.
Figurez-vous que François Hollande voulait réagir. Bonjour monsieur l'ancien président.
Oui, bonjour. Pardon de vous reprendre ma l'herbe, mais je pense que j'ai fait une petite erreur dans votre lancement. Vous pouvez présenter en disant François Hollande. Il faut bien préciser, il fallait dire le président Hollande.
Ah, le président Hollande. Oui, bonjour président.
C'est quand même pas compliqué, il faut être carré. Hein.
Ah oui.
En plus, j'ai la chance qu'il y a encore un peu rond, donc faites rentrer le rond dans le carré.
C'est ça.
Voilà. Bref, il faut dire président Hollande. Oui, j'aime rappeler que j'ai occupé les plus hautes fonctions, contrairement à d'autres autour de cette table.
Oui, oui, monsieur le président.
Ben oui, président, il n'y en a pas beaucoup des présidents, ça se compte sur les doigts d'un pouce. Hein, voilà. Pour donner une image, en cette journée de football, il y a la Ligue des Champions avec Luis Enrique, et puis il y a le tout venant, la Ligue Amateur avec Habib Bey en Ligue Amateur. Chacun se reconnaîtra. Voilà, et j'écoutais attentivement Olivier Faure, pour qui j'ai beaucoup de compassion.
De compassion.
Oui. Se faire enfariner, c'est toujours une épreuve. Et on se doute qui est derrière cet attentat pâtissier, puisque d'après les premiers éléments de l'enquête, on a retrouvé sur le corps de la victime de la farine francinaise soumise.
Attention, monsieur Hollande, vous avez aussi reçu de la farine, justement. D'ailleurs, vous en avez encore un peu sur votre veste, là.
Où ça ?
Oui.
Non, c'est pas de la farine, ça c'est du sucre glace.
Ah oui.
Oui, c'est à cause de la gaufre l'heure. Oui. Oui. Ou
c'est pas. C'est venu avec des choux.
Non, ou des chouquettes. Ah, oui. C'était des chouquettes. Voilà. À moins que ce soit le pain au lait aussi.
Ah oui.
Quand même. Ce serait quand même pas le quidaman. Ah non, je sais, c'est bah, non, c'est le beignet. C'est le beignet. Oui, non, bon, mais bref, c'est pas le sujet. Non. Je voulais répondre à Olivier Faure concernant la primaire à laquelle il ne tient pas. À laquelle il tient tant, pardon, je confonds. Il y a un argument qui est imparable contre la primaire. Pardon, parce que j'ai un trou de...
Ça va revenir. Puis pour faire un point sur la situation dans le détroit d'Ormuz, le consultant militaire de BFM, le général Pélisse-Randy, est avec nous. Général ? Général ? Il est où ? Général ? Ah, il est là ! Il sort de sous la table. Général, vous êtes avec votre casque ?
Mirabel, appelez Glantine.
Général Pélisse-Randy ?
Non mais oui, c'est pas Glantine, c'est Pauline. Non, c'est Pauline. Alors, j'essaie de retrouver mes hommes de la 7e compagnie. Tassin, Pithiviers et Twitek.
Ah oui.
Et on a aussi intégré une fille, parce qu'à BFM, on est une armée moderne, on a Elsa Vidal.
Ah oui.
Je suis amoureux d'Elsa Vidal, la fille aux cheveux gris. C'est les cheveux gris, parce que c'est un super camouflage, les cheveux gris, parce que la nuit, tous les chats sont gris. Oui, parce que moi, je suis resté très proche du terrain. Hein, même si le terrain, il y a longtemps qu'il ne m'a pas vu.
Hein,
voilà. Oui, moi, la dernière guerre que j'ai faite, c'était le Tchad en 78.
Ah oui.
Hein, oui. Mais maintenant, ça a évolué, la guerre. Maintenant, c'est Tchad GPT. Il
parle, ah oui.
Je ne sais pas où c'est sur la carte, mais Tchad GPT.
On est bien
en train de
général, là.
Oui, pardon. Oui. Ah non, c'est moi le général. Pardon.
Oui, c'est vous. Oui. Alors, général. Bon, bah, c'est la fatigue. On a vu que vous travaillez beaucoup quand même.
Oui, c'est le problème. Je travaille beaucoup. C'est le problème, c'est que c'est une chaîne info en continu.
Ah bah,
c'est voilà. C'est tous les jours. C'est 9 jours sur 7. J'ai même pas pu faire le pont du 1er mai. Je sais pas qui est le con qui a fait sauter le pont. Hein, pourtant, j'avais bien dit le fil rouge sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton gris. Mais...
Vous faites jamais remplacer, général?
Non, ben non, parce que vous savez ce qui se dit à la rédaction. Je suis remplaçable. Oui, alors ils essayent de faire tourner les effectifs des généraux, hein, mais les autres, ils sont pas au niveau.
Moi, ah non.
Du coup, on se relaye à tour de rôle, mais c'est quand même très souvent chacun mon tour. Hein, voilà. Il fait quand même un peu chaud dans votre studio.
Oui.
Je sais que c'est pas réglementaire, mais sur un théâtre d'opération, parce que c'est Riquet, mais je peux m'enlever mon cax.
Oui,
mon
vous cax. Pouvez vous enlever vos...
Alors, faut l'image.
Voilà. Regardez sur les réseaux sociaux, c'est pour les réseaux sociaux.
Je me sens plus léger, vous voyez, plus à l'aise pour parler de la guerre des bateaux. Ma force, c'est que je suis expert nulle part, mais je suis à l'aise partout.
Ah oui.
Et oui. Eh ben si, les gens s'en rendent compte. Hein, en mer, je flotte. Dans les airs, je survole. Et sur terre, je m'enlise. Hein. Bon, allez, je vous laisse. À vos ordres, mon général.
Non, c'est vous le.
Oui, c'est moi, du général. J'oublie toujours.
Les chiffres de Médiamétrie sont tombés. CNews a dégringolé à la 3e place des chaînes info en avril. Et pourtant, Christine Kelly est tout ce qu'il faut pour retenir les derniers téléspectateurs.
Bonjour. Bienvenue sur CNews dans mon havre de paix, le spa Christine Kelly. La concurrence vous inonde d'informations anxiogènes sur le Moyen-Orient. Alors pour lutter contre tous ces antioxydants qui vous agressent, essayez notre formule zen. Un bain de boue vivifiant dans lequel on traîne quotidiennement Bali Bagayoko. Bien sûr avec respect, calme et volupté.
Bien sûr.
Découvrez également notre gamme de soins adaptés pour toutes les peaux à problème. Vous ne supportez plus le teint mat de Kabylie ou l'épiderme noir comme du charbon végétal? Laissez-vous séduire par les traitements que nous proposons à base de vitamine OQTF à l'extrait de remigration active. Alors je vous dis à bientôt. Je vous attends dans mon spa, Christine Kelly.
Merci beaucoup, Christine Kelly. Et nous sommes à présent avec... Tiens, oui, vous êtes de retour, monsieur Hollande.
Ça y est, ça m'est revenu.
Ah bon ? Alors, l'argument imparable contre la primaire ?
Non, le sucre glace. Ah, sur ma glace. En fait, c'était pas le beignet, c'était les choux rouges.
Ah, c'était les choux rouges.